Je sais pas pourquoi je la sens pas aujourd'hui, ça.
Ça va être une catastrophe.
Mais si, mais si.
Non, c'est vrai, l'invité
ne sera pas. Jamais senti une seule émission, Xavier.
Non, et l'invité ne sera pas là, ça va être une horreur, enfin tout ce que tu veux, quoi.
Radio éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, bonjour Thomas.
Salut Xavier, la forme ?
Ah oui, super, en plus il fait beau, il fait un été indien, c'est le départ de la quatrième édition de Printemps de Septembre dont une partie de l'émission sera consacrée. Cinquième,
ouais, en cinquième. Principe.
Cinquième édition. Et encore planté. Nous sommes le samedi 24 septembre et dehors il fait beau, il fait chaud. Vous êtes sur Radio éphémère jusqu'à 5h du matin comme tous les samedis. Nous ouvrons avec les magazines Supplément Week-end, BD, Cinéma, Télévision et Art Plastique, puis le cahier du sport, et à partir de 15h du mix avec à 15h Arma Farai, c'est du reggae, 17h c'est du vide ordure, c'est du punk, 18h30 Clark Nova, de la punk communiste pour étudiants, 20h, Last Hétéro Experience, 21h30 Liquid Sky, et à 23h Breakbeat Experience, et puis jusqu'à, oula, ça va pas s'arrêter cette nuit,
non,
ça va pas s'arrêter. J'espère bien.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio.
Oui, bon, d'accord, c'est un peu prétentieux. Mais d'un autre côté.
C'est vrai.
Supplément week-end. On va commencer avec un truc un petit peu arty. Ben oui, que voulez-vous ? Vive le week-end ! Chagrin du matin, playlist du matin, chagrin parce que c'était pas le bon morceau que je voulais passer.
Ah bon?
Non, non, c'était le track numéro 12 à cause du pari qu'on a fait hier avec Jean-Paul Gors.
Ah oui.
Conservateur de la Cinémathèque. Donc voilà. Donc on le passera tout à l'heure en cours d'émission. Je vais vous avouer une chose, c'est que quand même on avait prévu normalement que Kinou vienne à propos donc du concert qu'il organise demain dans le off du Festival Printemps de Septembre avec le label japonais 12T. Et malheureusement, voilà, c'est les aléas du direct.
Les impondérables.
c'est un peu, on va dire, comment dire, en impro total aujourd'hui, puisque en fait on refait le planning vraiment en live total.
Allez, balance-moi tes notes.
Là c'est et puis voilà, un zou. Thomas, tu es venu en charmante compagnie.
Oui, je tiens à signaler la présence dans nos studios de Delphine.
Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous.
Bonjour. Delphine. Tu écoutes quoi en général comme radio? Attention.
J'écoute France Inter.
C'est bien, c'est la bonne réponse. Alors, faut peut-être expliquer un peu pour ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas la couleur, qui ne connaissent pas Radio FMR, ou qui nous écoutent via le podcast sur le net, à partir du site internet de la radio www.radio-fmr.net. C'est que, on le dit assez régulièrement, la majorité des auditeurs de radio, des animateurs de Radio FMR écoutent France Inter, donc voilà. C'est la grosse blague, et cette fois-ci, il n'y aura pas d'alerte BBC à l'antenne.
C'est vrai. Non, il n'y en aura pas.
Non, il n'y en aura pas. Enfin, on aura tout fait pour, à moins que du sport le fasse exprès. Ceci dit, donc, aujourd'hui, nous allons parler du Festival Printemps de Septembre. Donc, la cinquième édition a été lancée hier. Le thème, c'est sur le vertige. Le vertige, je dirais, de l'affiche.
Oh, les vertiges au pluriel, attention.
Vertige au pluriel. Ouais, mais ça reste toujours le même problème. L'affiche est-elle lisible ou non? Ça, on en...
Ah ben, on lit que vertige dans l'affiche. On lit pas Printemps de Septembre. Hein.
Ou alors, car, vous avez une loupe.
Je te mets au défi de d'identifier l'affiche quand même.
Ouais, c'est difficile.
Voilà. Je tiens à signaler quand même que c'est un grand groupe arty qui a fait donc le logo, la typo, qui est assez connu. On va pas en revenir là-dessus. C'est une polémique que nous nous ferons un plaisir de développer pendant l'émission. Que voulez-vous. Enfin, ceci dit, donc, nous allons parler de cinéma, de bande dessinée. Il y a du Takeshi Miike.
Et
puis voilà.
Du cinéma expressionniste allemand.
Et puis, je sais pas, avec du sport, à mon avis, on sera en pleine rentrée. Donc, il y aura plein de choses qui vont le faire, plus ou moins. On va commencer avec la bande dessinée. Une adaptation d'un jeu vidéo.
Alors. c'est quoi comme jeu?
Oh, laisse-moi deviner, c'est le genre de jeu que j'ai vraiment du mal à supporter. Pour moi, un jeu vidéo, c'est j'allume la console, je la branche, et de suite je joue. Or là, c'est un jeu véritablement de campagne, c'est-à-dire le genre de jeu, je sais pas si vous avez joué à Civilization, ou à SimCity, même les Sims, c'est le genre de jeu que vous bossez, que vous jouez dessus pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits. Bref, le genre de jeu que vous n'arrêtez pas. Il s'agit de Metal Gear Solid, dont le premier tome vient d'être traduit en français pour l'adaptation en bande dessinée chez Soleil, sur un scénario de Chris Soprisco et un dessin de Ashley Wood. Metal Gear Solid, c'est un jeu désigné de Tactical Espionage Action. C'est vraiment, on peut pas définir autrement finalement ce jeu, c'est-à-dire que c'est vraiment un jeu où en fait, on est le barbouze des services secrets, militaire de carrière, entraîné à tuer dans l'ombre et surtout à se camoufler, puisqu'en fait tout le jeu se joue autour du camouflage. On va y revenir tout à l'heure. Moi, pour l'adaptation d'un jeu qui est d'origine japonaise, qui est sorti d'abord sur une console de jeu d'un grand groupe
de notre âge,
exact quand même,
la NES.
Exact, en plus, oui, exact, c'était pas de la 3D au début, ouais. C'était vraiment de la NES, oui, ouais. Oui. Et d'ailleurs, je crois pas que c'était sorti en Europe.
Ça, je mettrai pas ma main à couper.
C'est bien, parce que sans main, t'auras du mal à jouer.
Sébastien, le spécialiste de jeux vidéo que je connais, si tu écoutes l'émission et que tu as quelque chose à dire, rappelle le numéro de l'émission.
05 61 580 580. Donc, moi, je m'attendais pour une adaptation d'un jeu vidéo, soit à une manga, puisque c'est d'origine japonaise, soit à un comics assez mainstream et conventionnel. C'est-à-dire, vous voyez, le genre super-héros, etc. Ben, même pas. Les aventures de Snake, call me Snake, sont...
Excusez-moi, oui, c'est pas le même, mais la référencier, oui, dans le jeu.
Voilà, exactement. Sont dessinées dans un effet qui oscille entre le crayon gras, l'ancrage appuyé. C'est pourtant de l'infographie, mais on découvre tout plein de styles graphiques différents dans cet album. Des techniques de dessin qui varient tout le temps et une palette qui est bichromique. C'est-à-dire qu'on a le blanc de la page, bien évidemment. Dessus, on a un vert très sombre et un noir avec parfois des touches de rouge. C'est une palette qui est très très peu variée, qui est très floue, qui égare l'œil. Qui font que seuls des amateurs vraiment avertis du jeu vidéo ou de la bande dessinée s'accrocheront pour lire cet album. Comme on n'est plus dans un style graphique expérimental qu'une bête adaptation pondue à la chaîne. Bon, je repense bien évidemment à Léa Parker de la semaine dernière.
Oui, oui. Que je t'ai emprunté d'ailleurs, et je confirme, je suis absolument d'accord avec toi, c'est vraiment de la merde.
Voilà, et le jeu vidéo Street Fighter, où c'était, on va dire, du Dragon Ball, mais mis en couleur. Seul un scénario bien amené peut reproduire l'ambiance du jeu. On ne peut pas bâcler finalement ce genre d'adaptation, et là, c'est plutôt bien réussi. Et en plus, on a la surprise du graphisme, un graphisme qui ressemble non pas à celui du jeu vidéo, mais à celui de la pochette du jeu vidéo lui-même.
Oui, ils avaient développé... peut-être que tu vas en parler, je te laisse.
Ça tombe bien, puisque on y est, on prend vraiment notre pied à la lecture, le bouquin est très bien foutu, ce n'est pas un livre d'action, c'est un livre d'ambiance. D'ailleurs, le pitch est squelettique, limite caricatural. Une base secrète de missiles nucléaires dans une île de l'Alaska vient de passer sous le contrôle d'anciens soldats d'élite américains améliorés par thérapie génique, dernier recours de l'armée américaine, Solid Snake. Il faut sortir de sa retraite pour qu'il affronte son alter ego Liquid Snake. Si ça n'est pas de la série B dans l'âme, eh ben non, même pas, on se laisse prendre, notre regard aime à farfouiller les dessins au regard trouble, et franchement, enfin moi j'ai jamais été vraiment fan, c'est vrai que j'ai fait des parties de temps à autre, mais j'ai jamais pu m'accrocher plus de 30 minutes à un jeu vidéo. Ça n'est pas désagréable. Il y a le graphisme dont je parlais tout à l'heure, qui ressemble en fait à celui des pochettes, Thomas.
Oui, alors moi par contre, j'ai joué aux jeux vidéo et j'ai passé quelques nuits, effectivement. Donc effectivement, comme tu le disais, c'est la pochette, le style de la pochette qui est repris. Alors c'est toute l'ambiance graphique, ils avaient fait des fonds d'écran, mais c'était un univers extrêmement cohérent. Tout ce qui était merchandising autour du film, c'était avec ce graphisme-là. Donc au moins, vous ne serez pas déçus en lisant la BD. Par contre, l'expérience du joueur, c'est vrai que on peut considérer Metal Gear Solid comme le fleuron de ce qu'on a appelé le jeu vidéo d'auteur. C'était un jeu qui était conçu par Hideo Kojima, et il peuplait le scénario de son jeu avec beaucoup de références. Certains personnages ne s'adressaient pas à l'avatar dans le jeu, mais directement aux joueurs derrière la manette. Par exemple, on avait des énigmes où il fallait explorer la pièce dans laquelle on se trouvait et dénicher un code pour ouvrir une porte. Sauf que vous faites le tour de la pièce dans laquelle vous vous trouvez dans le jeu, et puis vous trouvez rien. Et puis à un moment donné,
je veux dire à la manette, hein, on fait le tour à la manette.
Oui, sur sa télé. On déplace l'avatar dans la pièce dans laquelle se trouve l'avatar. Et finalement, il s'adresse directement au joueur dans son canapé devant la télé avec sa binouze. Et justement, le joueur doit regarder sur la boîte de la PlayStation pour entrer le code, le numéro de série. Voilà, c'est avec son numéro de série qu'il pourra ouvrir la porte dans le jeu. Il s'adresse, il fait plusieurs clins d'œil comme ça. Et puis évidemment, on a souligné très rapidement, à sa sortie, que c'était quand même un équivalent au style hollywoodien des films d'espionnage, Tom Clancy, etc. Donc c'était.
Oui, d'ailleurs, il y a un jeu qui s'est inspiré de Tom Clancy, en fait, en bande son, justement, il s'agit du dernier volet de Splinter Cell qui est réalisé par Amon Tobin. C'est le centième album d'ailleurs.
Splinter Cell, voilà, Conspiracy Theory ou je sais plus ce que c'était.
Ah, mais c'est le centième CD sorti chez Ninja Tune, donc Chaos Theory, où Amon Tobin justement arrive à bien se mettre cette ambiance, c'est pour ça que je l'ai pris. Et d'ailleurs, on est dans le même ton. C'est la preuve que ce jeu vidéo a fait école justement de ce côté-là.
Oui, oui.
Parce qu'il a réussi à sortir, je dirais, d'une industrie, de même que Final Fantasy, on laissait vraiment libre cours à l'auteur.
Oui, et puis le jeu était parsemé de considérations pseudo-philosophiques sur l'univers guerrier, sur les dérives pour construire des espèces de clones militaires parfaits, etc. Moi j'ai joué au jeu, mais j'ai pas lu la BD. Toi c'est l'inverse. On verra. Je sais que tu as refusé de devenir manque de prêt ad vitam aeternam, mais je vais quand même me faire une requête pour te taxer.
Ah l'enfoiré. Enfin bon, on va passer à une autre bande dessinée, mais j'attends que du sport qui vient d'arriver ait le temps de s'installer, puisque là je pense que ça devrait pas mal l'intéresser, puisqu'il s'agit de la nouvelle BD de Chosy. Du sport, je vais te laisser quand même te mettre en place, etc. Et on va profiter un petit peu du fond sonore.
On parlait de banque de prêt là, mais c'est vraiment les échanges au taquet.
C'est comme dans la cour d'école en fait, quand on fait cette émission, on est des vrais gamins, on s'amuse entre nous. Et on se passe des trucs un peu étranges, je dirais. Des fois, ça fait un peu peur, hein, quand on voit les volumes.
Oui.
C'est mauvais pour le dos.
Non, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Pardon, excuse-moi, Duce.
Ça brasse.
Ouais, mais c'est vraiment pour dire. Voilà, quoi. On ne parle pas en l'air quand on parle d'une bande dessinée. Et puis, enfin, voilà, quoi. Je voulais parler donc du dernier choisi. Hop. Chosy, c'est pas un inconnu ici. On vous expliquera pourquoi en cours d'émission. Là, ici, une adaptation d'un roman en bande dessinée. C'est un exercice qui, à ma connaissance, il n'a pas fait d'ailleurs, puisqu'il s'agit d'un roman de Marc Villard, Rouge est ma couleur, donc qui vient d'adapter chez Casterman dans la collection Un Monde. Et Rouge est ma couleur, et ben ça se passe à Paris, à Barbès. Oui, c'est le 18e arrondissement de Paris, c'est la porte de Clignancourt, pour ceux qui connaissent pas. C'est pas loin des tatas de la place Clichy, mais c'est tout aussi glauque. Enfin, vraiment, c'est une ambiance qui est assez étrange, puisqu'il y a pas mal d'immigrés, il y a pas mal de prostitution, il y a énormément de trafic qui se font. C'est assez lourd. Si vous débarquez un jour place de Clichy, je vous déconseille de remonter vers l'extérieur. C'est assez étrange.
Ouais, il y a des rues où tu peux acheter de la dope sans descendre de bagnole. Enfin, c'était vrai dans les années 80, quoi.
C'était encore vrai il y a encore quelques mois. Je peux le confirmer. En voulant donc serrer un dealer à Belleville, David Norlan, un flingue confirmé, voit descendre son partenaire Karl. La femme de David le quitte car elle avait une relation avec donc le collègue qui a été tué en action. La bonne occasion de faire sortir Zoé, sa fille, de l'hôpital psychiatrique où elle y est depuis qu'elle y a tenté de tuer sa mère alors qu'elle était en pleine redescente de speed. Tu vois déjà là, ça
casse la famille. C'est
nickel. David va tenter de refaire sa vie. Il accepte le retour de sa fille à condition qu'elle suive des séances de discussion collective avec des camés et d'anciens camés. Ça tombe bien, elle veut décrocher définitivement. Elle espère qu'en remontant un groupe rock avec son copain, et ben cela va l'aider. Bon, faut juste qu'elle rachète du matos, c'est-à-dire une batterie, et qu'elle trouve un local répète. Seulement, il se trouve que il y a une petite salle de concert qui est disponible, Utopia, mais le tenancier Borelli, eh ben il orchestre aussi tout le trafic d'héros dans le quartier Barbès, et que son dealer marocain a pris quelques congés un petit peu forcés. Bref, il est en manque de main d'œuvre pour refourguer la mort sur les trottoirs. Zoé Norlan va se retrouver donc dans une situation un peu paradoxale. Elle veut décrocher de la cam et finalement elle se retrouve à dealer pour pouvoir se payer sa batterie et se produire sur scène. Quant à son père David, à la recherche du fumier qui a dézingué son partenaire, eh ben il va vite s'apercevoir que l'enquête semble patiner volontairement. Et là il commence à se dire, bah, si même l'IGS fait patiner l'enquête, dans quelle sale histoire des policiers ont-ils pu bien tremper ? Ce sont des ingrédients parfaits pour un roman noir qui est très bien ficelé. Marc Villard est quand même un grand nom du polar en France. Le tout adapté par Jean-Christophe Chosy et sa patte reconnaissable, c'est-à-dire des couleurs très saturées, une ligne tremblée. Encore une fois, c'est du très grand. Faut dire que Chosy l'a fait Sans rancœur, La vie de ma mère, La peau de l'ours, Carla, Béton armé. À chaque fois, une critique sociale, mais avec humour. C'est-à-dire, il décrit la vie de banlieue, la vie des personnes qui sont en marge. Là, il le fait vraiment sans humour. Et Chosy, et ben là, il s'est trouvé avec Marc Villard, et ben vraiment un scénariste de choc très bien fichu, celui qui dans le cœur des amateurs de la noire remplacera le duo Manchette et Tardy. C'est vous dire vraiment la qualité de ce bouquin. Et Jean-Christophe Chosy, figurez-vous, c'est pas totalement un inconnu pour Radio FMR puisque c'est l'un des artistes qui a oscillé dans les années 80 autour de la radio et qui a plus ou moins fait partie. Bref, c'est quelqu'un que l'on connaît ici et que l'on supporte de tout cœur, justement parce qu'il a su décrire vraiment la zone, la fange et tout le reste du sport. T'as peut-être quelque chose à dire
Non, rien de plus, hein, t'as fait le topo à peu près exact.
Bon, ça m'apprendra à faire trop bien mes sujets si je ne suis pas aidé par mes partenaires. Il est midi 20 sur la poubelle des radios FMR 89.1 MHz. Donc le disque que j'avais prévu de passer à la place de celui qui était en intro, je m'excuse, enfin pas le disque mais le morceau, je me suis trompé et oui ça arrive, que voulez-vous.
Pour des tas de ferrailles, une gosse à marteau, le jeu
Stéréo Total, donc un musicien allemand qui parle pas français, une allemande d'origine française qui parle très bien français. Plus belle que les voix d'Arte, je trouve. Mais ça, c'est personnel. Et en fait, ce que l'on entend, c'est l'album qu'ils ont tiré d'un ciné-concert qui a été présenté au Festival d'Angoulême il y a 2 ans, si je me souviens bien. Il s'agissait en fait de Weekend, un film assez inconnu de Jean-Luc Godard de 1967 avec Jean-Yann et Michel Darc. Et eux, ils étaient sur scène et en fait, ils reprenaient sur scène les paroles du film en faisant des chansons. C'était absolument délirant et c'est vrai qu'on en reparlera un peu du printemps de septembre. C'était la transition rêvée pour parler du ciné-concert, mais finalement, on va commencer par parler de la rubrique cinéma, une sortie ciné d'un japonais fou qu'on aime bien ici.
Oui, on n'arrête pas d'en parler, et puis ça fait toujours du bien de revenir à du classique. Il s'agit de Takashi Miike, dont le dernier film sort justement au cinéma. D'ailleurs, ça tombe bien, du sport m'a rendu
ouais.
Ce DVD, Gozu. Qu'est-ce que t'en as pensé?
Je l'ai pas vu, j'ai pas eu le temps de le voir.
Pas grave. Bon alors, moi.
Mais le pitch a l'air bien, hein, de toute façon. Plus intéressant que le pitch du film dont tu vas parler.
Oui.
C'est clair. Hein.
Donc il s'agit de la mort en ligne. Alors je tiens à signaler avant que vous trouviez que je dis n'importe quoi dans ma chronique, c'est que moi je l'ai découvert dans une version piratée sur le net, sans sous-titres.
Ah bravo! Mais il était.
Et il l'avoue à la radio.
C'est pas moi qui l'ai téléchargé, mais je l'ai vu.
Ah d'accord.
Et sans sous-titres, alors j'ai pas tout compris, mais j'essaie de vous parler de ce que j'ai compris en tout cas.
Rappelle-moi, sans sous-titres, Takashi Miike, il est de quelle nationalité?
Japonais.
Et t'as compris quelque chose?
Bah, c'est visuel quand même.
Bon, d'accord, ok.
Ah oui, merci pour le guide. Alors, qu'est-ce qu'il disait à la 60e minute?
Bon, d'accord.
Alors, la mort en ligne, pour ceux qui n'auraient pas vu encore la pub pour ce film dans les journaux gratuits distribués à Toulouse, il s'agit d'un film dans la mouvance des Ring et autres, Ju-on et Darkwater, c'est-à-dire un film de fantôme à la japonaise avec des longs plans sur les placards, etc. Et
les toilettes, les Japonais, contrairement aux Américains, les toilettes sont hantées.
Ouais. Ah mais tiens, c'est pas cool. Et donc, est-ce qu'on pouvait attendre d'un film de cette mouvance-là par l'auteur fou de la trilogie Dead or Alive et Gozu? Eh ben en fait, l'histoire c'est une jeune fille qui reçoit un appel d'elle-même, en fait, 3 jours plus tard. Et à la fin du coup de fil, la fille du futur elle crève. Donc elle se dit, tiens, je vais crever dans 3 jours.
Super ambiance.
Ouais, génial. Et d'ailleurs, l'affiche c'est un téléphone portable qui est sévèrement zigouillé avec une espèce de boule rouge au milieu. Alors Xavier, est-ce que tu peux me dire de quel téléphone il s'agit?
C'est un NEC e-mode japonais, enfin c'est un FOMA d'ailleurs. C'est un 3G, donc voilà, c'est un peu technique. Hein.
Donc Miike qui s'essaie au film de...
Un enfoiré.
Miike qui s'essaie au film de commande, on avait déjà vu ça. Enfin, plus ou moins en tout cas, parce que c'était lui au départ qui devait réaliser Zatoichi, la nouvelle version. Celle qu'on connaît, réalisée par Takeshi Kitano. Et lui devait réaliser, et Kitano devait incarner le personnage. Et au dernier moment, il s'est fait débarquer par les producteurs, et c'est finalement Kitano qui a pris les rênes du projet. Donc c'était assez mal passé la première fois. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a du Miike aseptisé, ça il faut pas se le cacher, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir de sa part. On a des situations vues et revues, donc il s'adapte parfaitement à la série des films de fantômes, hein. Donc je disais, les placards sombres, des portes, des couloirs, des toilettes, des filles fantomatiques hiératiques qui ont une démarche un peu saccadée, qui marchent à l'envers, ça on l'a vu mille et mille fois, ouais, génial. En plus avec les cheveux tombants, parce que c'est la représentation des fantômes là-bas, bon, enfin bon. Là,
c'est super fashion, hein, depuis
Ring.
Ring, oui.
Ouais.
Ring.
Ouais. Et par contre, donc on a tout ça qui est chiant parce qu'on l'a déjà vu, mais par contre il y a 2 points positifs dus à Miike, ou peut-être pas en tout cas, c'est que dans l'histoire en fait il y a les médias qui commencent à s'intéresser à cette histoire de fille qui va bientôt crever, et ils disent bon tiens, on va te poser un micro et puis on va te garder dans les 20 dernières minutes où tu dois théoriquement mourir, et puis on va voir ce qui se passe en direct devant les caméras et tout.
C'est dommage, j'ai pas la fond sonore de la Starac.
si vous voulez l'avoir crevé, tapez 1 et tout. Et d'ailleurs, ils ont préparé, ils ont fait des bandes annonces. Ouais, vous saurez si elle va crever et tout. Ne zappez pas là, demain. C'est super cynique et tout. Ça c'est marrant. Alors, en plus, ils invitent un exorciste. C'est marrant la comparaison avec la Starac en France, avec le loft qu'ils avaient, où ils avaient fait venir des psys et tout. Ah oui, alors les communautés de 16 dans un loft, qu'est-ce que ça peut donner? Ben là, c'est pareil, un exorciste qui dit ouais, on va essayer de la sauver et tout. Et l'autre point positif, c'est les meurtres. Parce que d'habitude on montre rien, ben là les meurtres, Mickey il va pas avec le dos de la cuillère. La première fois il y a la fille qui, bon c'est à l'intro donc je vous spoilie rien du tout, elle se fait jeter du haut d'un pont sur un train, et après on a un long plan où il y a les doigts, on voit que la main, c'est coupé à l'avant-bras, et on voit la main qui tapote sur le téléphone, mais on se dit putain la main elle a l'air bizarre, et puis le plan la grue commence à reculer, et puis en fait le bras était coupé et il continue à appuyer sur les touches. Ça fait toujours plaisir. Et puis bon, les autres scènes de meurtre, elles sont vraiment impressionnantes aussi, avec des démembrements et tout. Bon, c'est du gratiné, allez-y.
Oui, Thomas s'il te plaît, on est obligé de couper à cause de la pub.
Du 22 au 25 septembre, Portet-sur-Garonne vous invite à déambuler sur les plages de sa Méditerranée. Welcome, Mozart. De nombreux concerts gratuits comme ceux de Camilla Joubran, Coach Aneba, Amnestoy Trio, Ralifa et plein d'autres. Des concerts payants pour lesquels tu pourras te faire invitationner par éphémère. Ainsi, l'Attirail Musique des Balkans joueront jeudi 22 au Centre d'Animation Culturelle de Portet. L'Ojo joueront quant à eux à la Halle de Portet le samedi 24, tout comme K2R Redeem, Dianwa Diffusion et Wachaklan qui se produiront le même jour mais au Confluent. La Méditerranée de Portet, c'est du 22 au 25 septembre à Portet-sur-Garonne.
Vous écoutez Radio FMR, je t'ai massacré Thomas.
Ouais, donc Mickey, les modes d'embrement, il y va pas avec le dos de la cuillère. C'est les meurtres, c'est super impressionnant et tout. Bon voilà, bref, du Mickey.
Mais en général, Mickey, il a absolument pas peur des scènes d'horreur, de montrer vraiment du glauque.
Non, les mecs ils se zigouillent au bazooka dans ce qui est un polar intimiste. Non, il a pas peur de finir ses... Généralement dans les films de Mickey, t'as une structure qui est toujours la même. C'est que c'est un film qui commence assez fort. C'est super bavard pendant 1h10 et pendant la dernière demi-heure,
t'as dû te sentir seul. Sont tes sous-titres.
Oui, et puis le dernier quart d'heure, tu te dis mais attends, c'est le même film ou voilà, ça finit toujours comme ça. Bon là, c'est un peu plus aseptisé, on va dire. Si vous avez découvert Mickey avec Dead or Alive ou Gozu, vous pouvez vous passer de celui-là, mais si vous connaissez pas la mouvance des rings et des Ju-on et tout, vous pouvez commencer par celui-là, c'est quand même du honnête hein, voilà.
Qu'est-ce que ça donne par rapport à un ring adapté par Hollywood?
Je n'ai pas vu The Ring.
Je te parle du premier hein, qu'ils ont adapté, celui qu'ils ont fait par un clipper.
Oui, ben, je n'ai pas vu. Non, mais parce que si tu veux, c'est un peu compliqué l'adaptation de The Ring. Donc d'abord, il y a eu Ring 1 au Japon, réalisé par Nakata. Ensuite, il y a eu Ring 2. Ensuite, il y a eu Ring 0, réalisé par un autre mec, mais qui commence avant le 1. Ensuite, il y a eu le remake du Ring 1, qui a été réalisé par Hollywood. Le remake du Ring 2, réalisé par Hollywood aussi, mais ils ont débauché Nakata pour faire ce qui était officiellement le remake du Ring 2, mais en fait c'était quand même un remake officieux de Dark Water qu'il avait aussi réalisé au Japon. Pendant ce temps, il y avait Ju-on qui sortait au Japon et Hollywood s'est dit on va les adapter aussi. Entre temps, le mec qui avait fait Ju-on, il avait fait pas mal de films direct ou vidéo, Ju-on qui se passait avant le premier, Ju-on 2, Ju-on The Grudge, et ben et après il est allé faire son... Qu'est-ce que tu... on s'y perd un peu avec tous ces remakes, bref. Ces films ils se ressemblent tous de toute façon.
Enfin, de toute façon, ce genre de film d'horreur, c'est justement ce qui a relancé l'industrie live du cinéma au Japon, qui a été littéralement laminé par le marché direct ou vidéo et par l'animation. Ouais. C'est vrai que actuellement, c'est pour ça que ça marche pas mal, parce que ça permet de mettre pas mal d'auteurs. On en a parlé pour Cairo, on en a parlé pour plein de films. Ça a permis d'explorer de nouveaux effets à très très faible coût.
Oui.
et en même temps justement à renouveler l'écriture, ce qui fait que Hollywood actuellement essaie de s'y mettre, mais bon, ouais. Sarah Michelle Gellar
dans The Grudge,
à mon avis, c'est un peu un éléphant dans un magasin de porcelaine fine. Ouais.
Et puis bon, c'est vrai que
je parle pas de son volume personnel, hein.
Non, mais c'est vrai que ce genre de film, en fait, c'est un bon moyen pour faire peur avec très peu de moyens. Tu filmes des couloirs avec des filles qui sont immobiles, et puis tout d'un coup, t'as des filles avec des cheveux longs qui arrivent en marchant à l'envers. Voilà, c'est à force, on a vite fait le tour. Ça tombe bien que tu citais Cairo, parce que c'est, enfin
Cairo,
un autre sens à tous les deux, je pense. C'est quand même un film qui se démarquait pas mal de ce genre de système.
Et qui en fait était une copie d'un dessin animé japonais qui s'appelait Serial Experiments Lane. Mais là encore, encore autre chose.
Voilà, donc c'était la chronique de Takashi, enfin le nouveau film de Takashi Miike qui s'appelle La mort en ligne et qui sort en principe, je crois, mercredi prochain.
On reste dans le cinéma, je pense, même si ça me fait mal un peu de commencer.
Quoi, déjà
non, ouais. On va. Bon, je laisse encore courir la musique. Oui, c'est vraiment de l'impro total, hein. Donc on va parler du festival Printemps de Septembre.
Yeah.
Oui, tout ça parce que l'on attend un invité qui n'est pas encore arrivé. Donc,
C'est l'invité mystère.
Donc, c'est quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup, qui fait partie des gens qui font que grâce à qui la radio tourne quotidiennement, et pourtant vous l'entendez pas au micro ou trop rarement, et c'est bien dommage parce qu'il a vraiment plein de choses à dire. Le printemps de septembre, est-ce qu'il est trop arty pour le grand public? Je sais pas, quand on voit l'affiche, après tout, il y a de quoi se poser des questions.
Enfin, moi, ça m'arrange parce que vous parliez tout en début d'émission de ce qu'écoutaient les animateurs de Radio Éphémère à la radio, et la plupart, la majorité, c'était France Inter et tout. Moi, c'est pas du tout mon cas, moi, je préfère France Culture. Et justement, à l'occasion du printemps de septembre, j'ai lu un article aujourd'hui où...
Ils sont à 18h aux abattoirs.
Ils expliquaient que France Culture était vraiment bien impliquée avec plusieurs émissions en direct qui avaient lieu depuis différents locaux dans Toulouse.
Oui, il y a plusieurs lieux, oui, pardon, excuse-moi.
Concernant le printemps.
On va en revenir. C'est vrai que donc le printemps de septembre, c'est quelque chose qui est un événementiel qui est assez gros pour pouvoir déplacer comme ça des médias nationaux, ce qui n'est quand même pas donné à tout le monde. D'un autre côté, comment dire, est-ce qu'il n'est pas un peu arty, un peu trop, je vais dire, pointu? Un grand froid peut-être dû à l'inauguration du tout premier festival. Mais oui, tout le monde s'en souvient. 31 morts, c'était en 2001. On peut pas dire qu'ils aient vraiment eu du bol, quoi, pour ce coup-là. Pourtant, ils ont fait des efforts pour rendre l'art contemporain accessible. Ainsi, pour tous les lieux d'exposition, vous trouverez des médiateurs. C'est quand même une précaution indispensable. En ces temps où le public électeur vote plutôt à droite, vous savez, les masos qui se déclarent très satisfaits à plus de 40% par TF1 et Arte. Au dernier sondage, pardon, 50% de satisfaits pour TF1 et pour Arte, et puis France 2, France 3, M6 en dessous de 20%. Du coup, là, on se dit, oups, oula, est-ce que l'affiche illisible est-elle la meilleure image du festival, savoir une image complètement brouillée? Finalement, seuls les concerts sont suffisamment populaires pour faire une masse critique, c'est ce qu'on pourrait dire, puisqu'on a passé tout à l'heure donc Stéréo Total, on va passer après Gonzalez. Mais il n'est pas évident de se faire un nom, je vais dire, de se rendre populaire face à une concurrence européenne qui est très rude. Il y a la Biennale de Vienne, il y a Biennale de Berlin, il y a Barcelone. Il y a quand même un grand nom qui accompagne le printemps de septembre depuis ses origines, le printemps de la photographie à Cahors, il s'agit de la Fondation Cartier. Finalement, pour qu'un festival devienne grand et populaire, il faut qu'il ait son off. Un festival off impertinent, un festival off qui ne soit pas cadré par la politique, un festival off forcément au budget étriqué, mais surtout, un festival off qui fasse exploser le côté peut-être trop institutionnel de ce festival, de ce genre de manifestation, pour le rendre, je veux dire, accessible au public, c'est-à-dire arriver par la foi de certains, vraiment par la pension, plutôt que par le regard, je veux dire, un petit peu décalé, complètement, je veux dire, art press du festival lui-même. Alors, que dire quand même? de ce festival. Ben, primo, que il a malheureusement bien du mal à, pour l'instant, à trouver un public. C'est bien dommage, mais qu'après on trouve des choses qui sont plus qu'intéressantes. D'abord, il y a l'espace écureuil. Ce sont de grandes plaques de polystyrène découpées par de grands cercles et des trous noirs au mur. Bon, premier réflexe, on se dit, attends, il y a de grands cercles, il y a des grandes taches noires qui semblent bizarrement découpées. Doit forcément avoir une perspective, vous savez, un peu comme quand vous prenez l'escalator à la station Jean Jaurès, il y a un endroit où on voit tous les cercles se aligner, donc nous aussi on veut trouver cet endroit magique, où est cette perspective, et que finalement, donc il n'y en a absolument pas, peine perdue. Par contre, on se croirait comme une petite souris dans ce gruyère extrudé. Eh ben, il s'agit d'une œuvre de Stéphane Calais, And the Moon is a Cheese. Tiens, c'est marrant, une réminiscence d'un dessin animé de Wallace et Gromit.
Mmh. C'est vrai. Et ben moi j'aurais un truc à dire sur cette expo par contre, parce que bon, t'as dit que c'était un gruyère géant et tout, mais bon, on oublie quand même de dire que c'est quand même taillé au cutter, pas franchement très clean non plus. Et puis bon, c'est
Ça pourrait être plus catastrophique. Hein.
Ouais. Et puis bon, personnellement, pour avoir fait 6 ans de Beaux-Arts, tu sais, enfin, je me suis aperçu qu'on avait une attitude différente quand on en était sorti.
Je tiens à signaler que Thomas est l'un des rares étudiants d'une promotion des Beaux-Arts à ne pas faire de l'aménagement urbain au quotidien, c'est-à-dire balayeur ou terrassier, ouais. ou affichiste. Il y a des affichistes. Hein.
Oui, il y a des profs aussi. Ouais. Et alors c'est marrant parce que t'as deux attitudes. T'as une attitude quand t'es aux Beaux-Arts et que tu vas voir les expos comme ça. C'est oh putain, c'est fou cette science de l'espace, putain, cette attention prodigieuse, cet humour qui nous arracherait presque un infarctus. Oula, c'est trop drôle. Et puis, une fois entré dans la vie active, tu te dis finalement, bah putain, c'est vraiment de la merde. Hein. Ce truc taille au cutter, c'est vraiment enfin, c'est mauvais quoi. Enfin, moi, j'ai pas aimé en tout cas.
Moi, j'ai trouvé l'occupation assez intéressante, justement par le fait que c'est assez fragile. C'est dans un lieu qu'ils ont réussi à rendre étroit, que du coup, les gens se disent c'est une œuvre d'art, c'est une pièce unique en plus, puisqu'elle est vraiment taillée à la pièce. Donc, ça doit valoir des ronds, etc. On va essayer de pas trop abîmer. Donc, j'hésite à voir l'installation que ça va devenir quand il y aura du monde, avec les gens qui vont être comme ça.
Ouais, ouais. Et ce qui est drôle, c'est que quand tu sors de l'expo et qu'il y a des gens qui arrivent, parce qu'il faut savoir qu'il y a un sous-sol dans l'espace écureuil. Et quand tu sors du sous-sol, il y a les gens qui te disent c'est la même chose en bas. Ouais, ouais.
Ah. Mention spéciale quand même pour la tentative de peinture au fouet juste en face de l'accueil. Ça vous verrez par vous-même. On sait, on est méchant, mais bon, que voulez-vous ? On essaie d'avoir un regard décalé vis-à-vis de ce que l'on chronique en général. Et c'est vrai que là, on y est allé très fond. Très profond, et que carrément quand on va, puisqu'on n'a pas fait beaucoup de choses, hein, on est allé après à...
Sur les berges, ouais, à l'école des Beaux-Arts. Tiens, on en parlait justement tout à l'heure.
Pourquoi ? Je sais pas, c'est un peu l'impression qu'on a eue quand on est ressorti quand on est ressorti de l'installation de Gérard Merz, qu'il a déjà présenté d'ailleurs à la Biennale de Vienne, et là aussi, il s'agit d'une appropriation de l'espace. Puisqu'en allant voir ces longues colonnes de néons, on sait que EDF est partenaire du festival.
C'est vrai que c'est blanc, hein.
Excusez-moi. Quand je dis parfois obscur, c'est le terme exactement inverse, puisqu'on est baigné de blanc.
Ah ouais, mais...
D'ailleurs, c'est amusant, puisqu'on a fait les cons avec un appareil photo. Vous le verrez vous-même sur le site de l'émission, si vous allez sur radio-fmr.net, puisque là, franchement, il y a de quoi s'amuser. Alors prévoyez des lunettes de soleil
surtout,
si vous y allez,
hein,
le soir, parce que franchement vous allez
cramer la gueule, hein. Même si c'est le soir, allez-y avec les lunettes, hein.
Alors si vous prenez des photos, pensez à désactiver le flash, parce que c'est pas la peine. Donc voilà. Thomas, on a parlé donc tout à l'heure des ciné-concerts, puisque en fait, ce qui est intéressant au printemps de septembre, c'est pas uniquement la danse, la peinture, le théâtre, les sculptures et toutes les installations. C'est surtout la seule partie vraiment populaire du festival, ben c'est la musique. On voulait en parler pour le off, mais je crois que pour qui nous s'est loupé. Avec donc les ciné-concerts, il y en a un que tu as vu hier qui se reproduit tout à l'heure.
Oui, oui, qui était pas loin de l'Expo, hein. C'était sur les mêmes lieux, dans la cour de l'école des Beaux-Arts. C'était un ciné-concert autour du film de Friedrich Wilhelm Murnau. Ou alors, je sais que du sport est germanophone. Est-ce que tu pourrais me prononcer à l'allemand, s'il te plaît?
Qui Friedrich Wilhelm Murnau?
Bon, voilà, c'est ce que j'ai dit.
Bah, bon, oui, voilà, non, mais bon, ça c'est simple, hein, y a pas de problème.
Bon, d'accord.
Le fameux expressionniste allemand.
Voilà, et le ciné-concert, bon, c'était un film de 1920.
Qui nous a fait quand même, hein, le cabinet du Dr. Calgary. C'est que des films muets allemands, hein, mais en noir et blanc. Il nous a fait aussi, un peu plus tard, je me rappelle pas.
Je suis pas sûr que ce soit lui qui ait fait Calgary. Hein.
Si, si, c'est le premier. Hein.
Oh, si, ben, si, il va falloir redemander aux spécialistes, hein.
Bon, pardon.
Bref, Thomas. C'est pas grave.
Enfin, de toute façon, ça a été tourné aux États-Unis, alors.
Oui, oui, oui. Et puis, bon, le ciné-concert, c'est Olivier Mélano qui fait la musique derrière. C'était, on a une ambiance un peu de guitare électrique derrière. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il utilise aussi des nappes faites au synthé. On a assez l'impression de voir du Carpenter, la musique de Carpenter sur des films expressionnistes allemands. C'est pas inintéressant. D'ailleurs, de façon, Carpenter l'a toujours dit, hein, pour les compositions des cadres pour New York 97 et tout. Il était vachement inspiré par le cinéma allemand des années 20.
Et par le côté, justement, à la fois le regard entre guillemets scientifique qu'on retrouvait dans le film Nosferatu et en même temps le côté un peu touche à tout justement de ces expérimentateurs.
Donc si vous voulez aller au ciné-concert, bon, c'est je l'ai vu hier soir, mais il se produit également ce soir à 21h30. Alors allez-y si vous aimez les jeunes hommes coiffés avec du gel Yu-Gi-Oh, trois t-shirts enfilés les uns sur les autres, ils ont l'air voûtés, la binouse et trois clubs au bec, et les filles aux cheveux en bataille tenues par un pinceau et habillées en péruvienne, allez-y, c'est la faune arty qui s'assiera à côté de vous dans le gravier en parlant pendant tout le film, qui va vous niquer tout le son, mais c'est pas grave.
C'est normal, c'est l'école des beaux-arts.
Oui, 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 c'est allez-y quand même, hein, c'est bon, c'est, on sait à quoi s'attendre quand on va dans ce type de lieu. Et alors, pour parler du film, effectivement, c'est un film de Murnau qui a été réalisé à Hollywood. Ça raconte l'histoire d'un couple qui vit dans une ferme avec un petit enfant, voilà, et ben un beau soir, il y a le mec qui va être attiré par une brune qui va passer à côté de la maison, il va aller la rejoindre. Puis elle lui dit ouais, ce serait cool que tu m'accompagnes à la ville, on va s'amuser, on va s'éclater. Et puis l'autre, il lui dit mais ma femme, ah ben ce serait cool que tu la noies parce qu'elle va pas nous servir, et puis ce serait bien que tu sépares de ta femme, tu vois. Voilà. Et du coup, elle lui dit bon, ce qui serait bien, c'est que tu l'emmènes dans une promenade en barque et que tu la noies, etc.
Et c'est vachement romantique.
Ah ouais, c'est super romantique, ouais. Et en fait, bon, je vais pas tout raconter, mais une fois dans la barque, une fois au beau milieu de l'eau, et qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va obéir à la tentation de la brune, ou est-ce qu'il va obéir à son amour pour la blonde? On sait pas. Alors on va voir. Allez-y, c'est à 21h30 ce soir. Alors c'est un film interprété par George O'Brien, Jane Gaynor qui incarne l'épouse et qui a reçu d'ailleurs un Oscar pour sa composition dans le film, et également Margaret Livingstone. Ce qu'on peut dire du film, c'est que bon, tout est le perfectionnisme des décors, parce qu'il faut savoir que tout a été reconstitué en studio, puisque on voit beaucoup de plans urbains de la ville, et avec une fête foraine, etc. Et c'est là, on voit vraiment le perfectionnisme du réalisateur allemand.
On voit surtout les moyens qu'il a mis, ouais, Hollywood, parce que selon les fiches de Monsieur Cinéma, donc j'ai chopé ce matin rapidement, oui, sur, oui, le net, hein, moi je l'ai. C'est qu'en fait, ils voulaient s'inspirer du dernier homme sur Terre. Attends, merde, j'ai oublié là l'histoire là du grand monsieur qui travaille dans un grand hôtel de Fritz, le dernier des hommes, voilà, de Fritz Lang. Ils ont été vraiment impressionnés par le discours social, et que du coup ils voulaient plus faire ces petites comédies légères et tout, ils voulaient en faire un, et ils ont mis des moyens monstrueux, ah ouais, puisque en fait ils ont fait venir un arbre sur lequel ils ont fait recoller les feuilles les unes après les autres par une armée de
Mexicains. Oui, parce qu'à un moment donné, il y a une scène avec un orage terrible qui s'abat sur la ville et sur la campagne. Et on a un décor désertique au beau milieu de l'eau avec un arbre qui est au milieu. Et il a fait reconstituer justement le village de campagne. La lumière est parfaite. Enfin, tu t'en prends plein la gueule. Je crois que du sport, tu l'as vu peut-être, non? Non? Bon, ben si tu veux y aller ce soir, je t'encourage. En tout cas, c'est super beau. Ça dure un peu plus d'une heure trente.
Tu oublies de dire une chose surtout, l'entrée est gratuite.
Ouais, voilà. Voilà. L'entrée est gratuite. C'est à 21h30 ce soir à l'École des Beaux-Arts. Ciné-concert, le film L'Horreur de Murnau, qui est accompagné musicalement par Olivier Mélano.
Qui nous a rejoint, ça tombe bien. Parce qu'on est tout juste. Kinou, donc c'est donc on parlait tout à l'heure, tu as pas pu écouter donc du festival off que tu essaies d'initier au nom de Radio FMR, c'est-à-dire en fait de sortir le festival de son cadre peut-être un peu trop coincé, psycho-rigide et tout ce que j'adore ce mot et tout ce que l'on veut donc vis-à-vis de du festival, ton niveau sonore est pas assez fort, oui. Donc il faudra qu'on le trouve. Sur le casque. Je sais pas si tu l'as enlevé.
C'est pas grave. Je vais si on m'entend.
Donc en fait, tu fais venir un label japonais 19T.
Oui.
Voilà. Non, c'est pas le bon.
C'est pas grave. Allez, on va faire
y venir. Donc en fait,
faire venir.
Pourquoi moi la question que je voulais te poser, c'est franchement, qu'est-ce qui t'a motivé à vouloir monter un off?
Oh non, mais c'est pas tellement de faire un off, c'est-à-dire que l'idée de faire venir ce plateau de 19T, du label japonais 19T, était en dehors un peu du printemps, c'est-à-dire que les faire venir c'était quand même assez intéressant, et il s'avère qu'ils avaient une tournée, on peut rappeler une mini-tournée, c'est-à-dire qu'ils font 4 ou 5 dates en Europe, et dont à peine 2 dates en France, dont Toulouse.
Une à Dunkerque, une à Paris.
Et alors à Paris, oui, s'il y a Paris, et une à Toulouse, donc oui, c'est ça. Donc ça me fait 3. Et en fait, il s'est avéré que c'était le 25. Et donc, en voyant avec les gens de la programmation des soirées nomades, on s'est aperçu que c'était possible d'avoir une complémentarité. Et l'idée aussi, c'est effectivement de sortir le printemps de son cadre très rigide. Mais il est pas tellement rigide parce que malgré tout,
il a du mal à être populaire à part justement les manifestations musicales dont on
absolument.
Parlait.
Absolument. Bon, ceci dit, apparemment, il y a quand même pas mal d'entrées hein, dans les expositions. Donc en fait l'idée c'est effectivement de susciter un peu d'émulation autour et donc de faire en sorte d'être dans une espèce de off du printemps et puis de susciter des vocations de façon à ce que les gens voient que ben, à Toulouse il y a aussi d'autres choses.
D'accord. Comment tu t'es orienté finalement sur les artistes de ce label plutôt qu'un autre? Bon, c'était l'opportunité qu'ils soient en France, mais t'aurais pu prendre un groupe français ou espagnol ou anglais.
Oui, effectivement, on aurait pu faire ça, mais le principe c'était quand même de faire venir des gens qui sont très connus au Japon ou à l'extérieur. Enfin, ça c'était au Japon en l'occurrence. Et de les faire jouer en France parce qu'ils sont pas du tout connus. Je dirais que par exemple Aphex Twin a dit des gens de 19T dont un qui ne jouera pas mais qui s'appelle Utabi que c'était le label le plus excitant qu'il puisse y avoir actuellement hein. Donc bon, dans la musique électro hein. C'est quand même de faire venir des gens qui sont très connus au Japon voire en Chine pourquoi pas ou dans des pays d'Extrême-Orient ou vraiment ailleurs de leur faire rencontrer le public toulousain.
On va passer à un morceau de Deceptagon qui est donc l'une des 4 personnes qui seront en concert demain, 18h au garage.
Non,
c'est
17h, pas du tout au garage. C'est à la plage. Voilà, donc à la plage qui est 49 rue de la Concorde. Donc,
donc avec tous les flys distribués en ville.
Non, les flys, c'est corrigé tout
t'aurais
ça.
T'aurais pu me prévenir sur le site web quand même que je m'étais trompé.
C'est de l'organisation de dernier moment, hein, sachant que quand même, il faut dire que c'est rien n'était sûr et donc ça se fait à l'arrache. À l'éphémère parce qu'en fait c'est pas moi qui l'ai fait venir, c'est Radio Éphémère.
Vous avez l'habitude.
Vous avez tu as aussi l'habitude, parce que c'est aussi radio éphémère, mais donc en fait c'est comme ça, quoi, c'était une performance. Et donc des sept wagons, il faut dire que lui c'est le seul qui soit pas japonais, il est canadien
et qu'en fait il compose sur du matos trouvé dans une poubelle.
Absolument, voilà. Oui, parce que quand même le principe, alors rapidement de ces quatre artistes, c'est qu'ils travaillent sur des sons, ils déstructurent un peu le son, ils travaillent avec des sons qui viennent qui sont à la portée de tout le monde.
On écoute ça. Never know they roll, put some, go them, put them. Never know they roll, put some, go them. Never know they roll, put some, go them, put some, go them, put some, go them. Fear it, they roll, go them, fear some, go fear, but no, go to be a fear. Fun. Agressif, hein, quand même.
Ah oui, non, c'est quand même assez. Bah, oui,
c'est marrant, ça ressemble pas mal au son des chipsets Yamaha, vous savez, ceux des Game Boy et des NES.
Alors, en fait, c'est quand même aussi un de leurs travaux, c'est-à-dire que quelqu'un comme Misawa travaille essentiellement qu'avec ce genre de matériel.
Voilà, Misawa est l'une des personnes qui vient, donc on cite les quatre artistes.
Les quatre artistes, c'est Shex, hein, qui lui vient de Kyoto, donc des Septagones qu'on vient de voir, qui lui est canadien. Misawa qui vient de Hokkaido, et Kopi qui vient de Tokyo. Et donc en fait, donc trois Japonais et un Canadien. Le Canadien est sur ce label japonais qui a un peu une antenne londonienne, en fait, on va dire. Quand même, je crois que le manager de 19T est londonien. Et donc il faut dire, oui, effectivement, un peu resitué musicalement. Pour tout le monde, ça va se ressembler plus ou moins, hein, mais en fait c'est un peu différent. Shex, on va dire que c'est plus, on va dire un peu rap, breakbeat. Des Septagons, on vient de l'entendre, c'est un peu dans la même lignée. Misawa, c'est beaucoup plus expérimental. Et Kopi, alors des Septagons, il fait aussi quand même pas mal de trucs assez ambiants, planants, hein, quand même, faut le dire. Kopi, c'est un peu plus rap, là, vraiment, on va dire rap.
De toute façon, on peut s'amuser, si vous avez une connexion internet plutôt de haut débit, on peut s'amuser d'ailleurs à scratcher leur propre morceau.
C'est assez rigolo, oui, parce qu'ils ont un site, alors on va le dire, www.19-t.com. Vous regardez bien, vous faites pas comme plein de gens qui me disent « Ah, oh, c'est un japonais », non, il y a aussi l'accès en anglais, donc bon. Voilà, donc vous y allez dessus, et il y a une mixette virtuelle qui est assez excellente, et on peut mixer carrément.
Donc on prend les CD gravés, voilà, marqués au fuzz, vous les glissez, voilà, sur la platine, et après vous essayez de faire du cross-fad ou bien de scratcher. C'est assez rigolo, moi franchement je me suis éclaté.
Alors peut-être qu'ils vont amener ça, en fait, hein, parce qu'en fait ils vont jouer sur ordinateur, ils joueront pas sur platine, donc peut-être qu'ils vont faire comme ça, on en sait rien.
On n'en sait rien, ça c'est le grand mystère. Faut pas dire que Moby et Jean-Michel Jarre, ils font, ils appuient sur play sur le Pro Tools et après ils font. Ouais,
après, c'est les chorégraphies sur scène.
Voilà. Bon, il faut quand même être honnête hein, pour en faire aussi. C'est un peu ce qui se passe. Hein. Mais bon, il y a quand même l'ambiance parce qu'en fait, en plus, ce sont des personnages. Donc voilà, quelqu'un comme Misa White qui est pour l'instant, dit-elle, un homme. Enfin, il y a tout un
on ne sait pas. On va le découvrir de toute façon sur Radio FMR plus tard, puisque donc il y aura une interview qui sera enregistrée
et qu'on en diffusera sur la radio là ce soir. Nous les recevons ce soir.
Donc nous on astique les questions puisque voilà. C'est un dîner à la Thierry Ardisson en fait. Voilà. Donc on va se prendre un procès. On va se prendre un procès là.
Voilà, voilà. Tout à fait. Alors bon.
Un Duffy. Pardon. Sinon donc. Est-ce que vraiment, moi, il y a une question que je me pose, c'est comment t'as réussi à rentrer en contact avec des Japonais?
Ben, en fait, c'est très simple. Ils sont très accessibles. Hein. Ils ont un site net. On les contacte. Ils disent oui. Mmh. Ils sont contents. Tout va bien.
Et si l'expérience marche bien? Enfin, fonctionne bien. Est-ce que toi, tu aimerais vraiment essayer de monter un off parallèle au festival l'année prochaine?
Non, faire une opération comme ça, oui, mais monter un off, non. C'est-à-dire qu'il faut que aussi d'autres personnes puissent se lancer dans l'aventure. Hein. C'est pas, on va pas se prendre le monopole d'un off. Un off, c'est justement.
Mais justement, c'est sortir un peu le festival par rapport au cadre officiel et montrer des artistes locaux. Quoi. Ça
c'est
peut
pour
être
ça qu'il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent des choses. Là, c'est de la musique. Mais ça, c'est quand même très proche de l'art contemporain parce que c'est la musique déstructurée, on n'est pas sur de la musique de danse ou de la musique publique. Ceci dit, là, au Japon, si.
Bah, attends, l'art tech, c'est la musique déstructurée qui est de
au
danse.
Au Japon, hein. Tu veux dire qu'ils dansent sur ça?
Oui, au Japon, ils dansent
d'accord.
Sur ça.
D'accord.
Oui, non, mais c'est ça. Alors, le problème avec les Japonais, c'est que, il y a un petit côté très sérieux, parce que je pense qu'ils ont une réflexion derrière, mais il y a aussi un côté complètement fun, et c'est ça qui est assez génial, c'est ce mélange de fun et de sérieux fait qu'il y a une ambiance qui permet d'y rentrer dedans.
Ouais, et puis il faut pas oublier peut-être aussi le niveau culturel, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux par rapport à la France à accéder à des études qui sont relativement courtes, mais très, 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 très denses. Et d'un autre côté, non, pas dense, danse. Et d'un autre côté, justement, c'est de là que l'on voit justement le nombre de références qu'il y a dans n'importe quel dessin animé ou n'importe quel film. Là-dessus, ils jouent énormément. Et c'est vrai qu'il y a une production arty. D'abord, ils ont les moyens qui n'ont rien à voir avec ce que l'on voit en France, puisque il y a une fange de gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de sous, mais ils investissent énormément.
Ils sont assez décomplexés, voilà. C'est ça qui est génial. En fait.
Ils sont considérés comment au Japon?
Ils sont très bien considérés. Ils vendent de plusieurs centaines de milliers d'albums. Ah. Et alors avec l'idée que quand même derrière, c'est quand même des grosses peintures, sachant que ce sont des échelles différentes. Sur ce label, il y a un monsieur qui s'appelle Utabi qu'on espérera bien un jour faire passer, qui lui vend des millions d'albums.
Donc
avec ce genre de musique qui là encore c'était comme disait Xavier tout à l'heure hors micro, c'est quand même le plus accessible pour des gens qui sont
enfin que je trouvais qu'on pouvait mettre rapidement
à la radio. Non, ceci dit le reste est très accessible. En plus j'ai fait écouter à des enfants, ils adorent ça, c'est absolument génial.
Donc c'est vraiment un truc de découverte. Est-ce qu'il y aura possibilité, tu sais pas s'il y aura possibilité sur place d'acheter des albums de
On le saura ce soir.
On le saura ce soir. Donc c'est en impro total, redonne peut-être les coordonnées.
Alors c'est donc demain à la galerie à la plage, c'est 49 rue de la Concorde à Toulouse. Et c'est à 17h jusqu'à 22h grand maxi. C'est un apéro.
D'accord. Donc on pourra en profiter. On vient d'entendre la cloche. Je crois que tu as un rendez-vous à 13h. Donc il va falloir que tu te téléportes relativement vite.
Eh oui, c'est horrible.
On va te libérer. Du sport est en train de ronger son frein en se disant « Putain, les jeunes, ils vont encore me brouiller sur l'autre émission. » Donc du sport, à toi.
Comme ça, direct, là.
Je sais pas, ouais.
Ouais, pour j'étais en train de feuilleter un petit quotidien anglais et je tombe sur la critique du dernier film de Guy Ritchie.
Ah oui, Revolver.
Ouais, Revolver. Alors, je vous donne juste la critique. Guy Ritchie commits career suicide. Guy Ritchie se suicide professionnellement. Quoi.
D'accord.
Voilà. Ok. Et à noter que bon, il y a d'autres films qui sont chroniqués et il y a toujours 1, 2, 3, 4. Ça va jusqu'à 5 étoiles. Hein, ok. Il y a un film danois cette semaine qui a 5 étoiles.
C'est
un thriller politique qui s'appelle King's Game. George Romero avec Land of the Dead n'a que 3 étoiles, et là ils ont pas mis d'étoiles pour le Guy Ritchie, mais pas du tout, hein, c'est-à-dire rien, que dalle, voilà, c'était juste en passant. Alors de la télé, il y en a pas mal. Alors on va commencer par le plus intéressant parce que bon, à la fin et dans le style roboratif, j'ai carrément les noms et les titres de tous ceux et toutes celles qui ont gagné les Emmy Awards.
Ah, ben voilà.
Mais on va pas commencer par ça.
On va voir si les pronostics étaient justes la semaine dernière.
Pas mal. Je suis assez content en tout cas. Moi, je suis assez content. Bon, j'en ai rien à taper, mais bon, c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Non, d'abord de la télé si vous voulez, parce que il y a quelques petits inédits à venir pour cette semaine. Déjà, on commence par quelqu'un que vous connaissez vu qu'on en a parlé abondamment la semaine dernière. Léa Parker est de retour. Pour 30 épisodes quand même hein, de la deuxième saison, c'est pas mal, c'est un truc qui marche vachement bien, hein, qui a déjà été vendu dans 25 pays.
Hein, et en bande dessinée.
Non, pas en bande dessinée. La série, je parle de la série, bien sûr.
Non, parce que la BD, c'est une catastrophe.
Ouais, ouais. Je t'ai pas ramené le télécable où, justement, il parle de la BD, parce que bon, bah, il l'encense à fond et tout. Ouais, mais c'est un magazine de télé, hein, c'est pas un magazine de BD. Et donc,
Télérama, c'est un magazine de télé, c'est pour ça qu'ils ont rien compris au manga.
Alors, ça passe demain soir sur M6 à partir de 18h45, un premier épisode de la deuxième saison. Et comme on est concentré sur le week-end, demain également, il va y avoir match, hein, mais bon, ça c'est un petit peu normal. Mais demain quand même, dans l'inspecteur Barnaby qui fait son retour sur France 3 à 13h20, et bien dans l'épisode L'Homme du Bois, hein, je crois que c'est déjà la 6e ou la 7e saison. Et en fait, c'est la dernière enquête du sergent Gavin Troy. Tu sais, celui que quand Barnaby il va avoir un truc ou qu'il a pas envie de se déplacer, il dit Troy, allez voir ça et tout.
Ah non, là c'est beaucoup plus vache que ça parce qu'il se fout de sa gueule systématiquement
et qu'en plus,
il a une aventure avec sa fille.
Et il a une aventure avec sa fille, justement, je vais vérifier demain si ça continue ou bon, s'il en a marre et c'est pour ça qu'il se casse, quoi, en fait. Mais donc c'est sa dernière enquête, hein, c'est demain, et il est remplacé dès la semaine prochaine par le sergent Dan Scott, interprété par John Hopkins. Gavin Troy, c'est Daniel Cazet qui interprétait le rôle. Et je sais pas si vous avez noté, vous essayez de jeter une oreille, juste, hein, c'est comme ça que je me base, d'ailleurs c'est vachement bien, enfin il faut avoir une bonne oreille quand même, hein, tu vois, la brosse à reluire et tout, quoi. la voix de doublage de l'inspecteur Barnaby, c'est la même que celle de Mark Harmon dans NCIS. Ok, c'est le même mec. Ok, vous nous vérifierez. Hein. Donc demain c'est Barnaby et NCIS c'est le vendredi sur M6. Sinon, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a justement, tu parlais avant des Japonais qui se font piquer leur scénario, leurs films, leurs idées par Hollywood. Eh bien sûr, Hollywood pique tout en ce moment. Il n'y a pas de problème. Hein. Ils piquent même des séries ou les ricains. Quand ils voient des séries étrangères, ils disent putain c'est pas mal, on va faire ça et tout. Bon, nous on fait le contraire. Léa Parker c'est plus ou moins du Alias, du sous-Alias on va dire. Hein. Ok.
Sans
là
les ricains
et pas les petits parce que là c'est de la grosse pointure. Hein. On parle de par dizaines de millions de dollars hein, quand même. Hein. Bruce Willis qui produit les forces du mal.
Ça s'appelle comme ça.
Qui est ouais. Enfin, la version française, hein.
Ah, d'accord.
La version originale, c'est La Part du Diable, Touching Evil, c'est le titre anglais hein, de cette série diffusée par la BBC, qui est une des très 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 bonnes séries de ces 10 dernières années. Bon, le thème est un petit peu récurrent, hein, c'est la chasse aux tueurs en série, donc c'est toujours bien glauque, bien trash, mais enfin bon, ça se laisse regarder. La série anglaise, en fait, elle est portée par Robson Green, j'en reparle, et vous en aurez encore, il n'y a pas de problème, hein, qui interprète donc l'inspecteur Dave Grigan, hein, c'est dans une section un petit peu spéciale de la police anglaise qui s'occupe uniquement des cas de tueurs multiples, et il a avec lui une nana, enfin bon, qui lui fait un coup de main, bien sûr, hein, qui est également un agent, hein, qui a été interprété par Nicolas Walker et qui s'appelle donc Susan Taylor. Lui c'est Dave Grigan. Alors La Part du Diable anglais, hein, c'est diffusé ce soir sur TMC en deuxième partie de la soirée à 22h25, hein, toujours les deux épisodes, c'est toujours en deux parties, hein, c'est 2 fois 50 minutes, hein, les deux épisodes de ce soir sont intitulés blessure de guerre, alors que les forces du mal, c'est-à-dire ce qui est produit par les Ricains, par Bruce Willis en outre, interprété par Jeffrey Donovan qui garde le même nom, Dave Grigan, hein, seulement c'est transposé aux États-Unis bien entendu, alors que Vera Farmiga, l'américaine qui interprète Suzanne, je me rappelle pas son nom, mais le nom de famille est changé hein, du personnage. Dans cette série américaine, il y a également Jelko Ivanek qu'on avait déjà vu dans Oz, il joue le rôle du gouverneur dans Oz, il joue également le rôle de d'un juge dans une autre série assez connue. Il y a également Zach Grenier qu'on a vu dans d'autres séries. Bon, c'est du gros casting, hein, c'est du lourd. Et à la vue du premier épisode, bon, je me suis dit bon, ça va être un petit peu dur, ça va me casser les couilles, ils vont être nus à chier. En fait, c'est assez bien filmé, faut dire ce qui est. Jeffrey Donovan, bah, tire vraiment son épingle du jeu. Il ne joue pas du tout comme Robson Green. De toute façon, c'est impossible de jouer comme lui, hein, c'est clair. Hein. Parce que bon, bah, c'est le type qui joue vachement avec le feeling. Enfin bon, il y a un truc spécial qui se passe. Là, Jeffrey Donovan, il a quelque chose qui est pas mal. Bon, il faudrait faire attention à ce que là, les deux premiers épisodes ont l'air pas mal. Il faudrait faire attention à ce que dans la suite des épisodes, c'est le seul bémol hein, que j'aurais à formuler. Il faudrait que Jeffrey Donovan n'en rajoute quand même pas au niveau d'éthique, au niveau des l'esprit rebelle, tout ça, parce que bon, ça va juste limite, quoi. Hein, on se demande, quoi. C'est des fois la crédibilité du scénario carrément mise en doute hein, par quelques petits. Enfin bon, c'est les seuls reproches que j'ai à faire. Sinon, ça se laisse vraiment très regarder. C'est quand même une très très bonne surprise. Donc la série anglaise, La Part du Diable, c'est ce soir. Hein, c'est tous les samedis soirs sur TMC à partir de 22h25. Bon, c'est normal hein, vu les scènes qu'il y a là. C'est vraiment, il y a pas de problème. Hein, on voit même des mecs à poil de face. Alors c'est pour te dire, hein, attention là, hein. Et c'est les Anglais, hein. Alors que dans les Forces du Mal, c'est Ricain, donc laissez tomber, pas de mi-bar, rien, bon du sang bien sûr, hein, c'est normal, hein, c'est quand même des trucs de tueurs en série, bon, enfin bon, ça reste très soft quand même, hein. C'est diffusé en première partie de soirée sur Canal Jimmy, qui sont vraiment des gros enculés parce qu'ils nous foutent pas la version masterisée, hein. On a droit à la version française, on est merci, sympa les gars. Et donc qui est diffusé le jeudi soir, 20h45, deux épisodes à la suite. Sinon, beaucoup de rediffs, mais des rediffs de trucs que nous, ça nous a marqué, c'est vachement bien, c'est super et tout. Déjà, c'est sur France 4, et là, France 4, bah, vraiment, ils commencent à faire des trucs bien. Et ils ont pigé un truc, ils ont pigé que il faut chercher pas forcément du côté d'Eric, hein, faut pas franchir l'Atlantique, franchissez le Channel, c'est vachement plus près, avec le Restart en 3 heures, et on peut acheter des séries qui sont nettement plus intéressantes. La preuve, bye. Une série dont j'ai déjà parlé il y a pas mal de temps, l'année dernière, il y a 2 ans même, hein, Ultraviolet. Ultraviolet, une série qui a duré très peu de temps, hein, parce qu'elle était relativement incompréhensible et que bon bah le scénario il commence à s'égarer dans les contrées où nul ne sait jamais. Le pitch il est très simple, hein, c'est l'histoire de deux potes qui enterrent leur vie de garçon parce que l'un des deux va se marier et en fait ce mec disparaît. Juste avant de se marier, donc la future épouse qui est par ailleurs c'est une très bonne copine de ce pote, il dit ouais qu'est-ce qui se passe, et donc ce mec commence à chercher et il s'avère que son mec a été enlevé et bouffé par les vampires. Et attention, mais nous sommes dans l'Angleterre moderne, hein, c'est-à-dire de nos jours, et comment ça se passe, mais comment ils peuvent être là les vampires et tout, mais comment on les reconnaît, hein, parce que ils sortent pas le jour. Et si, ils peuvent sortir le jour quand ils boivent une certaine substance, mais seulement quand ils passent devant une caméra ou devant un miroir, là, il n'y a pas de reflet ou il n'y a pas d'image. Et alors c'est vachement marrant parce qu'on sait l'obsession totalitaire de la Grande-Bretagne en ce qui concerne les caméras de surveillance et tout, il y en a partout, hein. Nous par rapport à eux, on est cool, hein. On est encore planqués dans la rue.
Ouais, mais je crois qu'il y a pas loin de 1 million de caméras.
Et c'est pareil, ils n'apparaissent pas sur les caméras de surveillance. Et donc le héros principal va donc essayer de rechercher cet ami, voir ce qu'il est devenu. Bon, il a été bouffé par les vampires et il va se trouver embringué dans une espèce de section qui a pour mission justement de débusquer les vampires et de les exterminer, bien entendu, parce que bon merde, faut pas déconner, hein.
Ah, ouais, attends, je veux dire la Buffy Force Angleterre.
Ouais, mais attends, parce que là c'est radicalement différent, hein. C'est climat un petit peu glauque, on sait pas trop. C'est interprété par Jack Davenport, c'est le héros dont je parle, qu'on voit également dans une autre série anglaise qui est pas mal, qui s'appelle Coupling, qu'on a appelé Si Sexy en France, dont il y a une version américaine complètement nulle, c'est même pas la peine d'en causer. Il y a Stephen Moyer, c'est justement l'ami qui disparaît, Susan Harker, et je crois qu'il y a eu pas des masses d'épisodes, hein, une 16 15 épisodes, pas plus, ça s'arrête comme ça, bof, on sait pas quoi. Et puis voilà, mais c'est à regarder, vraiment c'est très très bien. Ultraviolet, donc ça passe sur France 4 ce soir à 22h25, donc en concurrence avec La Part du Diable.
Si je peux me permettre, il y a une série anglaise qui moi me fait pleurer de rire sur France 4 et qui est très bien, c'est un whodunit, un polar assez étonnant, c'est Jonathan Creek. Qui est mais complètement disjoncté, c'est vraiment à voir, c'est vraiment là où
ouais,
on voit
le. Non, enfin moi j'accroche pas trop. Hein.
T'accroches
moi,
pas.
Je regarde les derniers épisodes, j'ai regardé le dernier épisode sur la BBC là, mais bon, c'est un peu chiant quand même. Hein.
D'accord.
Sinon encore de la rediff et là ça vaut le coup. Alors là je vous ai dégoté une de mes séries références, une de mes séries phares, une de mes séries qui me va droit au cœur chaque fois que je l'évoque. C'est Models Inc, bien entendu. Models Inc, le téléfilm, c'est demain sur M6 à partir de 13h20. Models Inc, Kesako. Eh ben, Models Inc, en fait, c'est un spin-off, c'est une série dérivée, en fait, de Melrose Place. Melrose Place, ça vous dit quelque chose?
Ouais.
Voilà, la
amour,
série
dérivée. Plein de pognon.
Qui était la série dérivée de Beverly Hills. Déjà.
Ouais, enfin, non,
jeunesse
concurrente.
Ah oui.
Concurrente, hein. C'était plutôt concurrente, hein. Et donc, dans le rôle principal, Models Inc, c'est, l'histoire d'une nana qui, à Los Angeles, possède une agence de mannequins. Cette nana est interprétée par Linda Gray. Ta-da, sous Hélène, Linda Gray, donc, hein, et qui, pour faire le joint avec Melrose Place, est en fait la mère de Heather Locklear dans Melrose Place. Voilà, Linda Gray est sa mère.
De Amanda.
Amanda, voilà. Ouais. Westwood.
Amanda Woodward.
Woodward, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, il connaît quand même. Hein. C'est bien. Et outre Linda Gray comme rôle récurrent dans la série, c'est la patronne Mackerel, donc il faut bien. J'allais dire les putes, mais faut bien qu'il y ait les employés. On retrouve Garcelle Beauvais, c'est une black qu'on a également vue comme assistante DA dans NYPD Blue. Il y a Cameron Dado, lui joue le rôle d'un patron de boîte qui tombe amoureuse des nanas, Brian Caskill. Il y a également Emma Sams, Carrie-Anne Moss. Ah oui, Carrie-Anne Moss.
Trinity.
Trinity, qui là, elle joue le rôle, elle joue le rôle de la vieille pin-up, c'est-à-dire elle a passé la trentaine et tout, donc elle a tout vu, elle est plus ou moins un petit peu défoncée, enfin bon. Et puis bon, il y a les petits jeunes qui arrivent et tout, qui savent pas trop débarquer de leur Arkansas natal. Enfin bon, c'est assez rigolo. C'est pas que ça, hein, c'est vraiment très tordu, hein, avec des embrouilles. Ça commence d'ailleurs dans le téléfilm que vous allez voir demain. Ça commence par un meurtre alors qu'il y a une soirée avec bien sûr cocktail, champagne, coke, tout ce que tu veux, mon gars, vas-y, poupoule, c'est par là-bas. Elle vaut quand même le détour parce que il y a tout le temps quelque chose qui se passe, hein, de toute façon, de bons sentiments, c'est génial. Il y a eu 29 épisodes de 60 minutes qui ont été tournés avec des guests réguliers tels que Robert Beltran, qui joue le rôle de Louis Soto, qui est également chacoté dans Star Trek Voyager. Il y a également des guests qu'on connaît. Ben, on citait Melrose Place. Il y a Daphne Zuniga qui fait une apparition. Grand Show qui fait une apparition. Il y a également Terry Austin. Il y a également John Beck, qui jouait le rôle du mari de Pamela dans Dallas. Rappelle-toi, les shorts moulbures et tout. Ah ouais, si. Si, je t'assure. Il y a également Mitch Pileggi, le patron de Mulder et Scully.
Ben ouais.
Et Mickey Pfeiffer également, qui fait une apparition. Dans Models Inc, c'est demain après-midi, 13h20 sur M6. Je vous ai gardé quand même pratiquement le meilleur pour la fin.
T'écris la japonaise, toi.
Le meilleur.
Tu commences par la page de droite.
Non, c'est parce que comme je suis gaucher, tu vois.
Ah d'accord.
On parlait du cahier du sport. Hein, c'est ça.
Alors il y a du nouveau quand même avec une série qu'à ma connaissance on n'a pas vu encore sur les écrans de par nos contrées, c'est NIH après NCIS, NIH alerte médicale. Alors ça ressemble un petit peu au bouquin de Robin Cook, je sais pas si vous connaissez, il y a Robin Cook l'anglais qui a écrit des polars et qui vivait en France d'ailleurs et qui est mort il y a on va dire une dizaine d'années, hein, qui écrit de super polars, hein, ce mec, les mois d'avril c'est de lui il me semble, et ça c'est l'anglais. Il y a un Robin Cook américain qui lui fait plutôt dans le suspense médical, virus mortel, des trucs comme ça, enfin genre tu vois, voilà, donc il faut pas confondre les deux. Là, c'est Alerte Médicale, donc plutôt du Robin Cook américain. C'est diffusé sur M6 le vendredi en deuxième partie de soirée à 21h35, donc après NCIS. Hein, donc, et dans les rôles titres, dans le rôle principal, c'est Neil McDonough qu'on connaît. C'était l'assistant du procureur dans Boomtown. Et il joue également un rôle dans Babylon 5, Babylon 5. Yeah. Ainsi que Kelly Williams, tout ça, donc dans NIH, Alerte Médicale NIH, qui veut dire National Institute of Health, c'est-à-dire le ministère de la Santé aux États-Unis. Voilà. Le crash test de Kojak, je vais regarder le Kojak la semaine dernière avec Ving Rhames. Alors beaucoup de changements, hein, pas de problème, hein, on reconnaît pas le petit côté Kojak qu'il y avait au début. Il y a quand même Crocker qui est...
Ah, bah, c'est bien.
Ouais, et d'ailleurs il lui ressemble en plus physiquement, ça c'est intéressant quoi. Ils ont choisi un acteur qui physiquement a une certaine ressemblance avec l'acteur qui interprète Crocker. Sinon Ving Rhames là, il a carrément une petite nana, une petite portoricaine je crois, hein, qui est interprété par Rosalind Sanchez. Chaz Palminteri joue le rôle de son patron, hein, du capitaine. Et bon, bah, si autant dans la série originelle, hein, avec Telly Savalas et toute la bande, bon, bah, on pouvait apercevoir au niveau des extérieurs et tout, bon, bah, vraiment là, le côté un petit peu réaliste, hein, que voulaient d'ailleurs instiller au départ les producteurs et les scénaristes, hein, avoir une série policière un petit peu réaliste. Pour le Kojak de Ving Rhames, c'est loupé, c'est niqué, parce que lui, toujours classé super sap et tout, ça dégouline de bons sentiments, parce que dans le premier épisode, dans le pilote, là, il sauve la vie à un gamin, il le prend sous son aile et tout, tu vois, parce que bon, il a pas eu de chance de la vie au départ, c'est pas une raison pour qu'il en ait pas plus tard et tout, enfin bon, on essayera de regarder encore demain soir, mais enfin bon, c'est pas très très ragoûtant. Ça passe le dimanche soir, sur 13e rue à 20h50. C'est pour les inconditionnels qui aiment bien Ving Rhames, c'est bien interprété quand même, il n'y a pas de problème. Hein, ça tient un petit peu la route quand même. Hein, enfin bon.
Il a gardé ses sucettes, Kojak.
Oui. Il a toujours les Chupa Chups. Hein, et en plus, sur son bureau, t'as carrément un grand pot avec plein de Chupa Chups dedans. Les gens qui peuvent se servir et tout, tranquille, pas de problème. Sinon, le meilleur pour la fin, alors, ouais, il est 1h15, ouais, c'est cool, alors. Le meilleur pour la fin, c'est quand même la rediffusion sur Canal Jimmy d'une série qui a été un météore, hein, qui a été une comète, hein, dans le monde de la télé américaine, hein, parce que ça n'a pas duré très très longtemps. Même qu'en Europe, ici en France, on a eu la chance d'en voir plus que les Ricains, vu qu'on a vu un épisode inédit qui n'a pas été diffusé aux États-Unis, il s'agit de la série Profit, qui est rediffusable demain soir sur Canal Jimmy à partir de 22h30. Profit, Kesako. Profit, c'est l'une des excellentes réalisations de Stephen G. Cannell, qui nous avait fait également Wise Guy, hein, un flic dans la mafia, et bien d'autres, pas mal.
Ouais,
c'est ça, le mec qui tire la feuille et tout, quoi. Parce que tu crois que le mec, il écrit ses scénarios, là. C'est ça, ouais, t'as qu'à croire et tout. Les mecs qui écrivent, en fait, c'est pas lui, hein, c'est plutôt les coproducteurs John McNamara et David Greenwalt. Bah, là, c'est quand même du beau linge, hein, qui sont les scénaristes de cette série et qui ont voulu faire une adaptation de Richard III de Shakespeare. Alors ça donne transposé dans le monde contemporain, eh bien un jeune cadre dynamique, hein, qui débarque dans une société multinationale américaine et qui va petit à petit gravir tous les échelons, essayer de gravir tous les échelons en utilisant tous les moyens inavouables et en utilisant toutes les faiblesses qui peut obtenir de la part de ses concurrents et concurrentes immédiates.
Laisse-moi terminer, ça se termine par une scène où il est par terre en train de gueuler « Mon cheval ! Mon cheval pour les stock options !»
Non, pas du tout. Mais seulement, aussi implacable il peut paraître dans sa vie professionnelle, hein, parce que bon, il arrive toujours à ses buts. En plus, il prévient avant d'attaquer. C'est ça qui est bien, quoi. Il dit bon, maintenant je vais faire ça, clac, clac, clac et tout. Et hop, on voit la réalisation de ces différentes choses. Il a une vie personnelle vraiment hyper trouble. Il a été élevé par un père abusif. Il ne connaît pas sa mère. Il la découvre justement, quoi, dans la série au moment au deuxième ou au troisième épisode. Il couche avec elle. Il s'avère que c'est pas vraiment sa mère, mais enfin bon, c'est sa mère quand même. Il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Il vit dans un super appart, mais attention, dans ce super appart, il n'y a aucun meuble. Il y a juste un grand carton qui est posé au fond d'une piole dans lequel il va se coucher nu, avec devant juste une télé allumée en permanence. Bon, alors c'est une série qui a pas du tout plu, bien entendu, à la chaîne qui l'a diffusée. C'était la Fox. Et ils l'ont viré au bout de 7 épisodes. Il y a eu un pilote de tournée de 90 minutes plus 7 épisodes de 45 minutes. Les ricains n'en ont vu que 6. Hein. Le Fox a dit non, ça suffit. Là. Parce que bon, il couche plusieurs fois avec sa mère. C'est pas qu'une fois, quoi. En plus, il dit, la mère est une junkie. Enfin bon, c'est lui qui lui fournit la dope.
C'est du gratiné.
Enfin,
ouais.
C'est du gratiné. Mais c'est absolument magnifique. Hein. La musique, bon, accessoire de Mike Post. Hein, c'est le mec qui a tout fait. Hein, Starsky, Hutch. Enfin, pas la version française, la version américaine qui nous a fait également NYPD, tout ça. Enfin bon, Mike Post, hein, c'est le monsieur des musiques de série. Interprété magnifiquement par Adrian Pasdar, qui joue le rôle Jim Profit, qui a également tourné dans une série plus récente qu'on a vue sur M6 ce samedi soir, qui s'appelait Les Chemins de l'étrange, mais enfin qui était vraiment très très naze, vraiment nul, quoi, pas de problème. Adrian Pasdar qu'on avait découvert d'ailleurs dans aux frontières de l'aube, hein, le film de vampire de Catherine Bigelow, là où il joue le rôle d'un vampire, là, très bon. Hein. Et il y a également Lisa Zane, Scott Pauline, hein, dans cette série Profit, donc c'est sur Canal Jim. Ne loupez pas ça, en plus il y en a pas beaucoup, hein, je vous dis, ça vaut vraiment le coup. Ça, c'est de la grosse série, hein, c'est des histoires comme aimerait en raconter le cinéma, hein. Mais enfin, ça c'est quand même une autre histoire. Voilà, je termine avec Profit. Vous voulez un petit peu des... Ouais, allez, on a encore 10 minutes.
Oh, c'est toi qui débordes sur ta propre émission, mais alors ne te plains pas pendant
la
tienne.
Qu'est-ce qu'on a de Gondam, Eastwood? Ah,
mais
oui,
les Emmy Awards.
Attention. Cette semaine, c'est que télé, hein, y a pas de problème. Emmy Awards, donc c'était dimanche dernier. En direct de Los Angeles.
Attention, il faut le bon fond. Donc on va
mettre alors fond. C'était pas mal, hein, c'était présenté par Ellen DeGeneres, hein, qui a essayé de délirer un petit peu, ça donnait des trucs. En fait, Ellen DeGeneres, ce qu'elle a essayé de faire, en fait, c'est de se poser en candidate officieuse, on va dire, pour être la prochaine host. Prochaine présentatrice des Oscars, en fait, parce que ça c'est le top du top, hein.
Ah oui.
Parce que bon, il faut dire que depuis que Billy Crystal est parti, il a été mal remplacé. Enfin, ouais. Ça
Whoopi
a pas
Goldberg,
tellement
de...
Non, il y avait Chris Tucker aussi.
Ah oui, d'accord.
Enfin bon, bref, ça a pas tellement bien marché, donc il cherche toujours encore le successeur. Il est même question que Billy Crystal revienne, quoi. C'est ouais. Pour te dire, hein. Pourtant, comme Billy Crystal depuis le temps, hein. Merde, foutez-lui la paix. Hein. Il a assez donné, hein. C'est vrai, quoi. Alors, c'est pour ça que c'était pas mal, hein, franchement, quoi. Avec en plus le Mal Mueller, hein, bien sûr, parce qu'elle est de la Nouvelle-Orléans, quoi. Elle nous l'a appris, je savais pas, donc elle nous l'a appris lors de cette soirée. Alors, au niveau des catégories, pas de toutes vous les donner. On commence par la meilleure émission télé-réalité, et c'est Jerry Bruckheimer qui est content vu qu'il a gagné avec un show qui s'appelle Amazing Grace, qui en fait est une sorte de carte au trésor. Comme sur France 3 avec l'hélico, sauf que ça se passe dans le monde.
Ah oui.
Et tu vas d'un pays à l'autre sans problème, allez vas-y, clac clac et tout, voilà, c'est un petit peu le genre, et c'est ce qu'on le plus, enfin pas le plus regardé les Américains, mais ce qu'ils ont le plus apprécié au niveau de l'émission de télé-réalité. Il faut dire que c'était en concurrence avec les déclinaisons françaises qu'on a, hein, avec Koh-Lanta, avec Survivor, ouais. Tout ça, bon ben c'est quand même cette émission qui avait l'air d'être la plus novatrice, on va dire. Enfoiré de Bruckheimer, il regarde la télé française, tu vois.
Et qui vote? C'est les professionnels ou c'est le public?
Je ne peux pas te préciser.
Ah, d'accord.
Je crois qu'il y a un quota, hein, il y a un pourcentage, et me semble-t-il.
Ah, mauvais point pour du sang.
Ah ouais, mais attends.
Thomas, tu notes.
Je connais quand même. On va continuer par citer des noms avec le meilleur acteur de second rang dans une comédie. Hein. Alors, était nominé quand même Jeffrey Tambor, Jeremy Piven, Sean Hayes, Peter Boyle et Brad Garrett. Peter Boyle, hein, on présente plus, Jeffrey Tambor non plus, et c'est Brad Garrett qui l'a emporté pour la sitcom Everybody Loves Raymond. Tout le monde aime Raymond, hein, une sitcom qu'on n'a pas trop vue ici en France.
Enfin, ils ont essayé d'installer, ça n'a pas marché.
Mais ça n'a pas marché, ouais. Du tout, hein, disons, c'est vraiment un truc très, très typique. Bon, pourquoi est-ce qu'il l'a eu? Pas forcément parce que c'est le meilleur. Mais parce que c'est la dernière saison, Everybody Loves Raymond s'est arrêté cette saison, hein, il y a eu le final et tout, après 9 saisons quand même, ils n'ont pas été aussi loin que Friends. Friends, ils en ont fait une de plus et tout, mais c'est pareil, hein, c'est un petit peu le syndrome, on va appeler ça le syndrome Friends, de toute façon, on va surveiller les prochaines émissions, pour savoir si c'est vraiment un syndrome, parce que bon, bah, c'était vraiment, allez, on te file ça, c'est pour service rendu, et puis voilà, parce que bon, bah, ils en ont eu plusieurs, justement, des Emmy, hein, outre Brad Garrett pour Everybody Loves Raymond. Il faut dire qu'il y a également l'actrice, c'est pareil, hein, c'est pour un second rôle, c'est également une actrice de Everybody Loves Raymond qui l'a eu, Doris Roberts, la vieille, là, la belle-mère, là, dans Loves Raymond, dans les comédies, dans les séries dramatiques, hein, le meilleur acteur de second plan. Il y avait aussi du très bon monde, hein, quand même, avec Alan Alda pour The Wind. West Wing, il y avait également Navin Andrews pour Lost, Navin Andrews c'est l'Irakien, Terry O'Quinn, ah oui, dans Lost, c'est le mec qui retrouve l'usage de ses jambes dans Lost,
ouais, okay, ouais, hein, qui jouait dans Alias, je crois, hein, d'ailleurs.
Ouais, et il joue également dans Arch Rim, le général Santiago, ça c'est autre chose. Et Oliver Platt dans une série qu'on connaît pas ici qui s'appelle Huff, mais qui marche très très bien aux États-Unis, et William Shatner pour Boston Legal, et c'est William Shatner qui l'a emporté pour Boston Legal. Et ce qui avait été intéressant aux Emmy Awards, c'est que on a pu voir apparaître sur scène, pour faire comme ça des parenthèses, on va dire, hein, des interludes, et ben des gens qui interprétaient des génériques de séries, et on a pu voir Captain Kirk avec une nana que je connais pas, hein, qui interprétait le générique de Star Trek, l'original, hein, alors avec William Shatner qui nous fait le commentaire, dit Space, the final frontier, enfin, tout ça, et après la nana qui se met à faire le générique carrément, c'était génial. En direct, hein, en plus, hein, parce que bon, bah, ok, hein, c'est professionnel jusqu'au bout des ongles, y a pas de problème. Ça va aller vraiment son pesant de cacahuètes avec William Shatner qui se ramasse son Emmy pour le meilleur second rôle dans une catégorie dramatique. Dans Boston Legal, qui est une série dans le monde des avocats et de la justice, où il est il joue avec un autre acteur qu'on connaît plus dans le monde du cinéma qui s'appelle Matthew Modine. Non, James Spader, putain, je confonds les deux, excuse-moi.
Ah oui.
James Spader, voilà, c'est ça, quoi. Sinon, on a
Professeur Nimbus.
Alors, j'ai tout noté en anglais, hein, je suis désolé. Alors, drama best supporting actress, c'est-à-dire meilleur second rôle dans une catégorie dramatique, était nommé Stockard Channing, la femme du président dans West Wing. Blitz Danner pour Huff et CCH Pounder pour The Shield, la Black, hein, dans The Shield, et c'est Blitz Danner qui a obtenu le Emmy. Meilleur réalisateur.
Juste une chose, West Wing passe le samedi soir sur France 4 sous le nom de À la Maison Blanche.
Oui, bah voilà. Qui passe sur France 4 juste avant ce dont je t'ai parlé, hein, qui passe sur France 4, hein, juste avant Ultraviolet, quoi.
Voilà.
Okay, d'accord. Au niveau de meilleur réalisateur d'un épisode de dramatique, hein, de série dramatique, il y avait Tarantino qui était nominé pour son épisode des Experts. Mais c'est quand même le pilote de Lost qu'il a eu, parce qu'il fallait qu'ils en aient, hein, J.J. Abrams, donc, qui a obtenu l'Emmy. Le meilleur scénariste pour le drame, pour une série dramatique, hein, c'est David Shore pour House, une série qu'on connaît pas encore en France, mais qui est une série médicale, qui raconte, qui est interprété d'ailleurs par un Anglais, hein, dans le rôle principal, Hugh Laurie, qui n'a pas eu d'amis, on comprend pas pourquoi, tant pis, hein, et qui parle et qui raconte l'histoire d'un médecin, mais qui est pas comme dans Urgence ou dans les autres séries où les mecs ils ont réponse à tout, là, le mec il se plante et tout, il est nul, il n'arrive pas, enfin c'est pas bon, et puis il a des états d'âme, tout fait chier, enfin bon, voilà, c'est un petit peu différent quand même. Alors Emmy, l'acteur principal dans une mini série où on a dans un téléfilm, alors là c'est du lourd quand même, parce que était nommé Kenneth Branagh, Ed Harris, William H. Macy, Geoffrey Rush, et c'est Geoffrey Rush qui l'a obtenu pour un téléfilm que j'ai hâte de voir, qui est produit par la HBO, qui s'appelle Life and Death of Peter Sellers. Geoffrey Rush qui interprète Peter Sellers. Ils en ont eu d'autres, hein, d'ailleurs, hein, parce que au niveau réalisateur des mini-séries, il y avait quand même Fred Chepizzi, Joseph Sargent, Stephen Hopkins, c'est lui qui a obtenu donc l'Emmy pour justement la réalisation de Life on Death of Peter Sellers, qui a l'air vraiment bien, hein, vraiment, j'ai vu quelques petits extraits.
Il avait été présenté
là,
à Cannes, hein,
ouais, qui avait été présenté à Cannes en plus, ouais, c'est ça. Niveau scénariste des mini-séries, bien, c'est également les scénaristes de Life on Death of Peter Sellers qui ont obtenu l'Emmy, hein, Christopher Markey et Stephen McFeely. Au niveau comédien d'une mini-série, hein, mini-série, c'est-à-dire un truc qui a 2, 3, 4 segments, hein, c'est-à-dire
où il y a c'est un très long film hein, de 4 fois 1h35, 1h20, 1h30, c'est dans ces deux-là. Alors bon bah là aussi il y a du beau monde avec Halle Berry nominé, Blitz Danner, Debra Winger, Cynthia Nixon et Sophia Epata Merkeson, c'est la moins connue, c'est elle qui a eu l'Emmy et c'est bien, on est vachement content pour elle. C'est la nana qui joue le rôle du capitaine Van Buren dans New York District. Si, si, la Black qui est la patronne hein, de Lenny Briscoe et de celui qui tout le temps, voilà. C'est elle qui l'a eu réalisateur de comédie. Eh bien, c'est Charles McDougall qui l'a obtenu pour Desperate Housewives, parce que bon, les petits nouveaux, faut bien qu'ils en aient aussi, hein, y a pas de raison. Scénariste, le meilleur scénariste de comédie, c'est pour une comédie qui s'appelle Arrested Development, qui est assez spécial hein, comme traitement au niveau comédie. Y a un public de fans, mais y a pas beaucoup de gens qui regardent. C'est pas trop apprécié quoi. Enfin bref, c'est un petit peu comme Profit, genre l'accueil que peut lui réserver le public. Hein. Ça a rien à voir avec Profit, hein, mais je vous rassure, c'est quand même cette série qui a obtenu l'Emmy pour le meilleur scénariste de comédie. Au niveau du téléfilm, eh bien c'est Warm Springs qui a obtenu l'Emmy du meilleur téléfilm. C'est La Vie de Roosevelt avec Kenneth Branagh et Cynthia Nixon, produit par HBO et réalisateur Joseph Sargent. Ah bah ça va, c'est encore du beau linge mon gars. Attends, j'ai encore une dernière page.
Ouais, parce que là il est l'année.
Au niveau de la mini-série Lost Prince, une série coproduite par les Anglais et les Américains, par la BBC et une chaîne américaine, qui raconte l'histoire de John, le prince, le fils du roi George V d'Angleterre, qui était le deuxième fils, mais enfin qui était un petit peu épileptique, autiste, enfin bon, c'était pas bon quoi. Donc meilleure actrice de comédie, c'est alors là il y avait du beau monde également, Jane Kaczmarek pour Malcolm, Marcia Cross, Terry Hatcher, oui, Felicity Huffman ouais. Pour Desperate Housewives et Patty Easton, putain j'écris mal. Hein. Et c'est je vous avais dit la semaine dernière Marcia Cross, bah non c'est Felicity Huffman qui l'a obtenu. Pour Desperate Housewife, qui est par ailleurs la femme de William H. Macy. Ça, je vous l'avais dit quand vous avez présenté la série il y a très très longtemps, hein, Desperate Housewife. Meilleure actrice de série dramatique, il y avait du beau monde avec Glenn Close dans la quatrième saison de Chilled, Jennifer Garner, Mariska Hargitay pour New York Criminal Intent. Et Patricia Arquette pour une série qui s'appelle Medium, qu'on n'a pas encore vu en France. C'est elle qui a obtenu l'Emmy. Wow. Meilleur acteur dans une comédie. Alors, il y avait Zach Braff pour Scrubs, il y avait Ray Romano pour Everybody Loves Raymond et Tony Shalhoub pour Monk. Et c'est Tony Shalhoub qui l'a obtenu, tu vois.
Tu l'avais pressenti, mais il t'avait dit qu'il risquait de pas l'avoir parce qu'il avait déjà eu.
Mais là, c'est content, quoi. Meilleur acteur, ça c'est le meilleur acteur dans une série dramatique. Était nommé eh bien Hank Azaria, Ian McShane, Hugh Laurie pour House, Sutherland.
Qu'est-ce que j'ai écrit déjà?
Kevin Sutherland, n'importe quoi. Sutherland, enfin bon, le mec qui joue dans 24.
Ouais,
hein,
Kiefer.
Kiefer Sutherland, voilà, merci mon gars. Et James Spader, donc, pour Boston Legal, c'est James Spader qui a obtenu... mais alors par contre, il a grossi, il est bouffi, on dirait qu'il carbure à l'alcool, il sort de désintox, c'est incroyable. Hein. Enfin bon, bref, quoi. Il est aussi bouffi que William Shatner, c'est peut-être pour ça qu'ils vont bien ensemble. Shatner, ça fait un bout de temps qu'il est bouffi, quand même. Pour la série dramatique, alors là, eh bien, à part Deadwood, apparaître très prochainement sur Canal+, et là, ça risque d'être également l'explosion, hein. Le western carrément quoi, ouais, une série
western.
Ah oui,
c'est le western gay.
Non, pas gay, non, Deadwood, hein, je te parle de Deadwood, pas le film d'Ang Lee, la série Deadwood. Il y avait 24, il y avait Lost, il y avait West Wing et Six Feet Under. Qui c'est qui a gagné? Allez, facile.
Lost.
Ah bien sûr. Et pour la série dramatique, comme j'ai dit, remerciant de tous les services rendus, Everybody Loves Raymond qui a gagné l'Emmy de la meilleure série comique. Voilà, c'est tout. Hein, ça s'arrêtera là, de toute façon. À noter que quand même, depuis que c'est des gens intéressants. Qui s'occupe de faire les commentaires des amis, ça vaut le coup de les regarder, on se fait pas chier quoi, quand même, quoi, ça vaut vraiment le coup. Et tu vois, hein, quand on parle de Profit, hein, y a carrément un tiers de page aujourd'hui dans l'IB, hein, pour te dire que je te raconte pas des conneries, quoi, tu vois. Et j'ai rien piqué dans l'IB, j'ai toujours le l'IB après avoir fait mes papiers.
C'est bien
du sport. C'est bien.
Parce que ça peut rajouter des trucs, mais enfin bon, tu sais. Hein.
Faut faut-il se méfier de Libération? Voilà un vaste débat que l'on n'entamera pas maintenant parce qu'il est 13h34 minutes et 49 secondes, donc on a bien débordé.
Ah, oui.
Alors là, du sport, je refuse que tu fasses la moindre annonce après Thomas le résumé de l'émission. C'est l'émission numéro 42. C'était normal.
Voilà, on a eu une erreur de morceau, on a eu une intervention de Kinou, un peu tardive, mais elle a eu lieu. Du cassage en règle du milieu artistique concernant notre chronique du printemps septembre. Un petit Xavier qui était super mal informé sur le concert de demain de 19T.
Qui a lieu où? Redonne le lieu.
À la plage.
D'accord.
Le téléphone des aidés qui a sonné en direct aussi. C'est pas très pro tout ça.
C'est pas très pro
du tout. Un séchage de du sport sur les votants des Emmy Awards.
Ah bah voilà. Ceci dit, donc demain à partir de 17h, concert avec Shex, Deceptagon, Miss Hawaii et Kaupi du label 19T. Donc ça, donc c'est à la plage.
À partir de 17h.
À partir de 17h, voilà, l'entrée de 3€. Et c'est donc dans le cadre un peu off du printemps de septembre organisé par la radio. Ceci dit, Thomas, on a été avec une charmante demoiselle
Avec
au plateau.
Delphine, merci de nous avoir accompagnés.
Ah non, plus près du micro, hein, faut pas être loin.
Ah, pardon, excusez-moi.
Voilà, on a bien débordé, donc il faut qu'on enchaîne tout de suite. Donc moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à midi. Thomas, lui, sèche lamentablement, il est puni.
C'est moi qui pars.
Tu me quittes?
Non.
Enfin, tout est fini entre nous. Du sport, voilà. Je te laisse le micro. Bon, alors, le temps que du sport s'installe, moi, je suis passé de l'autre côté, du coup, pour annoncer les programmes. Thomas, tu me gênes. Ah, t'es pire que mon chat. Poussière, dégage de l'écran. Les programmes Zarmafari, c'est du raga à partir de 15h, 17h. Vidordure, du punk à 18h30. Clark Nova, de la punk communiste, de la pop communiste, excusez-moi, ouvrier bac plus 5, 20h30, la stéthéro expérience. 20h, la stéthéro expérience. 21h30, Liquid Sky. 23h, Breakbeat expérience. Du sport, tu peux y aller.
Bon, ben dans la continuité, hein, carrément, un petit peu de sport avec, comme la semaine dernière, on va faire l'impasse sur le foot, hein, carrément, avec pour attaquer, pris par la patrouille, bien entendu. Hein, là, on va parler beaucoup de bordel, hein, de choses pas très nettes, hein, il faut dire. Hein. Putain, on va laisser la musique de fond, c'est pas mal avec la musique de fond, c'est cool, ouais. Allez, avec pris par la patrouille, le footballeur Marco Zanchi, défenseur central de Messine, a été contrôlé positif au méthylprednisolone. Celui-là, on le connaît, hein, c'est un corticoïde, et ça s'est déroulé après la première journée du championnat. Il a été suspendu à titre provisoire par la commission de discipline de la fédé italienne. Le club, il a expliqué que Zanchi, il a pris un anti-inflammatoire afin de soigner la cuisse droite, qu'il avait prévenu et qu'on proposait du contrôle antidopage. Une contre-expertise devrait avoir lieu, et donc dans le monde du foot, je vous l'ai dit la semaine dernière, de toute façon, hein, quand vous êtes positif, ça veut pas dire que vous avez condamné, parce que il y a plein de manières d'expliquer que c'était pas du dopage. Là, c'est du dopage, hein, carrément, et ça se passe au Fidji, hein, c'est l'ailier fidjien Vilmoni de l'Asso, c'est du rugby. 21 sélections quand même en équipe fidjienne, a été suspendu pour un an en équipe nationale après avoir subi un contrôle antidopage positif au cannabis le 10 juin dernier lors du match Nouvelle-Zélande-Fidji. Et le commentaire du président de la fédération fidjienne est le suivant: nous espérons faire savoir à tous les rugbymen au Fidji que nous ne tolérerons pas l'usage des produits interdits dans notre sport. Il y a également, dans le rugby, mais en France, et là, il s'agit pas de dopage, mais enfin, c'est des clubs qui ont été pris par la patrouille de la commission de discipline. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait jouer des internationaux lors de la première journée, alors que avec les nouvelles règles qu'ils ont instaurées, les internationaux, ils doivent se reposer au moins 3 semaines après des rencontres officielles et tout le bordel. Enfin, c'est vachement compliqué, c'est énorme. Et donc, et 5 clubs qui avaient dans le championnat de France de top 14 aligné des joueurs internationaux lors de cette première journée de rugby, les 19 et 20 août, eh bien, ont chopé une amende de la part de la Fédération de la Ligue Nationale de Rugby. Attention, le Stade Toulousain, 18 000 euros d'amende, dont 5 000 avec sursis. Le Stade Français Perpignan, 16 000 euros d'amende, dont 3 000 avec sursis. Narbonne, 14 000 euros d'amende, dont 4 000 avec sursis. Et au Biarritz Olympique, 14 000 euros d'amende, dont 4 500 avec sursis. Alors, pour expliquer les différences entre les différentes peines, hein, par rapport au nombre de joueurs qui avaient été justement impliqués dans ces sanctions, bah, ils ont dû calculer le nombre de, si le joueur était, était titulaire, s'il était sur le banc, s'il est rentré, s'il n'est pas rentré, tout ça, pour ces barèmes de peine. Un petit morceau de musique, et ensuite, bah, on parlera, ouais, du procès de l'OM qui va s'ouvrir.